Hello les amis. Oui, je vais en mettre un ou deux à l'amende là. Je lis le chat moi. Tiens, on va démarrer le live sur TikTok aussi. rire sardonique. Que lis-je? Donc quelqu'un innocemment est venu dans le chat sur Twitch pour poser une question fort sympathique. Attends, je la recherche. Monsieur 5e Fantastique, bonjour, je ne suis pas en retard pour le cours de presse. Alors, cours, c'est très sympathique, mais la petite revue de presse tranquille, quoi. Ce à quoi des habitués ont répondu à cette gentille personne, si c'est fini. Screamkiller 86. Si c'est fini. Et ça n'est pas tout. Vous allez me dire, c'est pas possible. Mais jusqu'où ça ira? Est-ce que les bornes ont été franchies? Quelqu'un a ajouté? C'est la rediff d'un best-of d'un React. Non mais. Mais où allons-nous? Mais où allons-nous? Mais où allez-vous même surtout? Ouais, je vous vois, hein. Est-ce que vous allez bien? Oh, attendez, j'ai pas mis le chat TikTok. Attendez, je vous fais une place, les amis. Alors, pop, 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 pop. Où est-ce que vous êtes, vous? Vous êtes là. Hop, comme ça, double chat. Double chat. Merci, Mathias. Curamalise, un, ça me fait plaisir de te lire. Deux, merci de partager ça avec nous. Est-ce qu'on peut envoyer un max de force à Curamalise qui vient de nous écrire un joli message dans le chat qui dit je traverse une période difficile dans ma vie, force à toi. Et comme ça a pu être le cas par le passé, je te regardais, me fait bien, me change les idées. Me fait du bien, pardon. Je te souhaite d'être heureux. Merci à toi. Soirée difficile hier soir. Et à tout le chat également, ce qui est très gentil. Soyez heureux. Bande de belles personnes. Curamalise, merci. Reste avec nous. On est là pour toi, de la même manière que tu es là pour nous. Et j'espère que ces soucis que tu évoques vont s'apaiser. Est-ce qu'on pourrait pas faire une petite five stack plutôt que cette revue de presse, histoire de finir cet arc Silver? Tu remues le couteau dans la plaie. Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin. Enfin, Lilianovitch. Hier soir, on en a rêvé. On l'a touché du doigt. On l'a touché du doigt, mesdames et messieurs. Le Silver. Hein. Nous étions là. Hein. Une équipe incroyable, un five stack de fou. Hein. On était chaud. Une victoire. Deux victoires. Trois victoires. Voilà. Et ce Riot. Et ce Riot qui ne nous donne pas le silver, qui est bien chiche en points, hein, bien peu généreux, qui nous arrête à 5-6 points du silver, 5-6 RR, voilà. Et là, il manque, donc du coup, on en fait une dernière, une quatrième. Évidemment, tout le monde le savait. Riot ne veut pas que je devienne silver. Donc je crois que nous en avons la preuve maintenant. Hein. C'est une forme de complot. Ils se sont dit, c'est drôle. C'est tellement drôle qu'il soit bloqué bronze, l'autre vieux là. Riot ne veut pas que je devienne silver. Et nous a refusé cette dernière win. Dingue ça. Colère, tristesse, abattement, conspiration. Ouais. Dans une session, c'est plié. Merci Sugar. Mais bon, après, je suis revenu à la maison. L'âme en peine, les chaussures traînant sur le bitume. Et je me suis dit, on a quand même fait trois wins. Donc c'était pas mal. Peut-être qu'on remettra ça ce soir. Merci beaucoup Zizi Bazooka. Pas seulement pour ton pseudo, pour ton message aussi. Salut Sam, nous dit Kitagawa, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je prépare actuellement le concours pour être prof des écoles. Alors déjà bravo à toi. C'est toujours un régal, les revues de presse et Valorant, merci pour ce que tu fais. C'est plus la revue de presse, hein, parce que Valorant. Parce que là, hier, il y a eu de la win, mais j'étais bien carry par la team. Hein. Oui, le plus 12, oui. Tu sais, le bronze a été plus utile dans l'histoire que l'argent. C'est joli ça. C'est joli ça. Salut Sable, tu serais OK pour répondre à une question difficile pour 2025? Ah, du tortiller du cul, fais poser la fais péter la question. Merci Sébafil pour le 45e mois d'abonnement. Merci Hugo tout court. Merci Marc. Outer Wilds, on a joué, ouais. Jeu incroyable. Jeu incroyable. Oh, attendez, il faut que je dise à Léa que le visuel pour le samplet de dimanche est validé. Dimanche, donc, deuxième épisode de samplet. Où elle est, Léa? De la saison 3, déjà. Soixantaine de jeux découverts déjà en saison 1 et 2. Et là, on attaque la saison 3, voilà. Et je dis à Léa que j'ai le feu vert pour le visuel. Je ne vous dirai pas qui est l'invité dimanche de Samplay, c'est une surprise. Hello Léa, on a le feu vert pour le visuel. Je ne vous dis, non, n'insistez pas, je ne vous dirai pas qui est l'invité de dimanche. C'est un secret. Ça va vous plaire. Hello Léa, on a le feu vert pour le visuel de Maxime Biaggi. L'invité de dimanche. Peux-tu me l'envoyer par mail? C'est pour avoir le moins de pertes graphiques. Par mail. Hello Léa, on a le feu vert pour le visuel de Maxime. Bonne journée. On n'a pas des bêtes. Bonne journée. Ok. Voilà. Je ne vous dirai pas qui est l'invité de dimanche. N'essayez pas. N'essayez pas. Ça commence par un M, me dit Dianovitch. Je ne commenterai pas cette tentative de me tirer les verres du nez. Je n'ai pas de verre dans le nez, d'ailleurs. J'ai le nez propre. Vous ne saurez pas qui est l'invité de dimanche. Comment ça? Mais du coup, c'est qui l'invité du sample avec le visuel de Maxime Biaggi? Hein? Quoi? Vous essayez de deviner, hein? Non, je ne vous dirai pas. Vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez jamais. Il... Plutôt marcher sur mon corps. Je n'ai pas commencé à parler de la critique. Déjà, le sommaire. Ah, nouveauté! Que déjà, le sommaire est affiché. Alors, ça, c'est une nouveauté que nous avons créée ensemble. Sachez que les meilleures idées que j'ai, moi, en général, c'est celles de la commu. Alors, ami TikTok, je suis désolé, mais il n'y a pas la place. J'ai demandé à Nico, qui connaît bien l'outil TikTok, comment faire, mais avec ce petit écran vertical, tout choupitou, là. Déjà, on vous met les articles, ça va apparaître dans un instant. Il y a le chat qui vient se mettre par-dessus. Le chat écrit blanc sur des articles en blanc, c'est un enfer, désolé. On peut pas changer, je crois, la façon dont le chat est présenté. Le sommaire, je peux pas vous l'ajouter non plus. On fait au mieux, quoi. Vous aurez ma douce voix et puis vous aurez les articles. Voilà. Et donc, par contre, sur Twitch, on a un sommaire. Voilà. Et donc, sur Twitch, ils savent déjà de quoi je vais parler. C'est incroyable, hein? Voilà, donc on va parler. C'est écrit. Hein. Mais je vais quand même vous faire un sommaire. Ah, j'ai posé ma question, Koss. Je remonte, Koss. La question très importante. Où es-tu, Koss? Dire des choses pourrait parfois déranger. Ah ouais, c'est une question en plusieurs. Alors, ok, arrêtons de tortiller. Du cul, j'ai dit, Koss. Comment expliques-tu que la plupart des gens aient de la visibilité, soient de gauche et prônent la bien-pensance parfois hypocrite en voulant à tout prix d'éviter de dire des choses qui pourraient parfois déranger? Ah oui, effectivement, c'est une question importante, ouais. La plupart des gens ont de la visibilité? Attends, laisse-moi réfléchir. Marine Le Pen, elle a un peu de visibilité, hein? Médiatique. Parfois, on ne voit qu'elle. Elle est quand même allée au deuxième tour de la présidentielle pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de visibilité. Pas sûr qu'elle réponde à cette définition de la bien-pensance de gauche parfois hypocrite. Jordan Bardella, bien peu présent dans les médias, lui aussi, quasi invisible, à tel point qu'on parle de lui pour représenter son parti. Certains médias ne parlent même que d'eux. Notamment dans la galaxie Bolloré, donc c'est une représentation médiatique très très forte. Non, mais sur les réseaux, Alors Cos me dit, mais sur les réseaux, bah justement, Jordan Bardella est sans doute l'homme politique français le plus présent sur TikTok, par exemple. Il en a fait un élément essentiel de sa communication. Alors Cos continue de corriger. Ah oui, mais influenceur, streamer, youtubeur, star du cinéma. Ah oui, mais écoute, là, les gens, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Alors, moi, qui empêche les gens proches du RN en France de devenir streamer? J'ai pas la réponse, moi. Vous l'avez peut-être, vous. Qu'est-ce qui empêche les gens qui partagent les idées du Rassemblement National, puisque je suis parti dans cette direction et tu ne me contestes pas, donc je pense que c'est un petit peu le fond de ta pensée. Qu'est-ce qui empêche les gens qui partagent les valeurs du RN d'être streamer? De quoi encore? Où es-tu? D'être youtubeur? D'être influenceur? D'être star de cinéma? Je sais pas, moi. Pas moi, en tout cas. Enfin, tu vois, je n'irai pas les consommer, mais rien ne les empêche de faire. Ce qui les empêche, me dit Joe Wine et Spirit, c'est l'extrême gauche qui va leur faire la guerre, autant rester apolitique. Ah bon, parce qu'il y a des influenceurs proches des idées du RN qui ont été empêchés de devenir des gens importants sur les réseaux à cause de la guerre de l'extrême gauche. Alors, c'est très intéressant, mais est-ce que tu peux me donner un exemple? Thibaut Inchep? Mais Thibaut Inchep n'est absolument pas d'extrême droite. Oh, si jamais il lisait ça, je pense qu'il te mettrait un gros procès dans tes dents. Diane me dit Thibaut Inchep qui est tout le temps attaqué, mais Thibaut Inchep que je vais recevoir dans Ça me plaît d'ailleurs le dimanche soir, Thibaut Inchep n'est absolument pas proche du RN. Si ça te fait plaisir de le penser, c'est très gentil, mais c'est complètement faux. Pas parce que le gars a un fichier, un drapeau. Qu'il est d'extrême droite. Hein. Ah, Salim qui dit d'ailleurs, qui n'est pas d'accord, qui dit il y a plein de personnes connues sur les réseaux sociaux qui sont d'extrême droite. Alors moi je ne les suis pas, mais si tu me le dis, je veux bien te croire. Salut les étudiants des Frey. Après, moi, encore une fois, les gens qui ont une pensée. Parce que là, on parle de l'extrême droite, mais on peut aussi parler d'une pensée de droite libérale, par exemple. Hein, ou de droite conservatrice, ou il y a plein de sensibilités de salut pantoufle, voilà. De la droite républicaine, la droite traditionnelle. Et puis, il y a effectivement l'extrême droite en France. Rien n'empêche ces gens, à ma connaissance, que ce soit droite. Traditionnel, RPR, UMP, LR, ou libéral, de droite libérale économique type macroniste, rien n'empêche ces gens de devenir influenceurs et d'avoir du succès. Je ne sais pas quoi répondre à ta question. Si, à eux, ils ont la liberté de le faire, et puis les gens ont la liberté d'aimer leur contenu, quoi. Si tu trouves qu'il y a pas assez de contenu de ce type-là, je sais pas. Pourquoi les gens proches de ces valeurs n'y vont pas, quoi? Sans parler de l'extrême droite. J'ai pas la réponse à cette question, quoi. En fait, j'ai vraiment pas, je troll pas, j'ai pas la réponse à cette question. Quelqu'un me dit, mais pourquoi il n'y a pas de. En gros, la question, si j'ai bien compris, c'est. J'essaie de comprendre le propos aussi, c'est pourquoi il n'y a pas d'influenceurs de droite et d'extrême droite. D'abord, je sais pas si c'est vrai qu'il n'y en a pas. Donc, la question, c'est pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi ils n'ont pas de succès éventuellement? Je sais pas, en vrai. Bien sûr, Daily Choc, la présidentielle, on va le faire. Ah, Défécateur nous dit. Alors, Défécateur, il connaît bien le sujet, parce que lui, il connaît bien Internet. Mais s'il y en a, mais ils sont pas dans vos recommandations. D'accord. Ah, alors, du coup, moi, effectivement. Mais attendez, c'est pas moi qui ai dit qu'il n'y en avait pas. Hein. C'est quelqu'un qui pose la question dans le chat, côté TikTok. Quelqu'un me dit, ah, mais tu fais exprès de pas les voir et tout. Mais attendez, moi, je dis pas qu'il n'y en a pas. Personnellement, je ne consomme pas. Pantoufle, notre ami Pantoufle, lui dit, il y en a beaucoup, mais surtout sur YouTube. Moi, personnellement, je ne les suis pas, je les consomme pas. Donc, je ne peux pas répondre à cette question de savoir s'il y en a pas. Si on a ou si on n'a pas. Mais quelqu'un me dit dans le chat, il n'y en a pas. Je peux pas répondre à ta question. Et d'ailleurs, on me dit, si, il y en a. Mais surtout sur YouTube. Mais je troll pas, je n'ai pas la question. Je n'ai pas connaissance de ces contenus parce que moi je vais pas les chercher, ils sont pas dans mon algo, quoi. Donc je ne peux pas répondre à ta question de savoir s'ils existent ou pas. Et du coup je peux pas répondre à ta question de pourquoi ils sont pas plus exposés, quoi. Merci Kos. C'est Kos qui a posé la question et qui nous remercie. Ouais, par contre, tu vois que le chat, lui, il a plein de réponses à te proposer, donc j'espère que tu trouves ton bonheur là-dedans, quoi. Il y a Marx Attack, je sais pas si ça répond à la question, qui répond: c'est bon les droits tard, arrêtez de faire les fragiles, vous faites honte à Papacito et Baptiste Marchais, chacun ses streamers, deal with it. C'est à toi que je voulais poser la question. Bah oui, mais j'ai pas réponse à tout, moi je suis pas Wikipédia, chouchou. Personnellement, c'est pas des contenus qui m'intéressent tellement, quoi. Hein? Qui m'intéressent même tout court. Donc du coup, je peux pas te donner une réponse que je n'ai pas, quoi. On voit ton orientation. Ah oui, Diane, j'assume complètement. Effectivement, je ne suis pas d'extrême droite, oui. Bien vu, bien deviné, oui. Bienvenue, hein, sur cet univers. Qui parle d'extrême? Moi, je dis que le RN c'est extrême droite. Diane est très en colère. Dit, qui parle d'extrême? Moi, je dis. Alors, je sais qu'il y a un discours du côté du RN et qui essaie de nous faire avaler l'idée que le RN c'est pas l'extrême droite. Alors moi, je dis que c'est l'extrême droite. Voilà, tu demandes qui? Moi, je dis. Après, tu peux ne pas être d'accord avec ça et le contester, mais tu me demandes qui le dit, ben moi. Et oui, et le Conseil d'État aussi, par ailleurs. Mais je veux pas me réfugier derrière la position du Conseil d'État, c'est un truc que j'assume totalement, moi. Se réfugier derrière la pensée des autres, parfois, c'est un peu facile, quoi. Moi, je le dis. Alors Diane qui insiste a dit, mais moi je parle pas de l'extrême droite, je parle de la droite simple. Donc que tu ne veux pas qualifier, mais alors du coup je suis obligé de deviner ce que tu veux essayer de dire. Et je pense que tu veux dire la droite républicaine, la droite LR, qui est ce qui a succédé à l'UMP et au RPR. J'essaie de deviner ce que tu veux dire, Diane, parce que tu ne précises pas. La droite simple, ça ne veut rien dire en politique. Donc, on va dire la droite républicaine. Alors, cette droite, elle existe, mais elle n'existe plus. En fait, le résultat des élections pour cette droite simple dont tu parles, j'imagine que c'est la droite LR, elle est dans les urnes, elle a été laminée. Hein, c'est quand même un parti qui a dirigé la France pendant des décennies, hein, avec l'alternance gauche-droite en France. Et aujourd'hui, bon, LR aux élections, c'est une catastrophe. Hein. Je ne veux pas te rappeler par décence les résultats des candidats LR aux dernières présidentielles. Mais ça a été une catastrophe, et aux législatives aussi. Donc, si tu me dis pourquoi elle est moins exposée, bah, tout simplement parce que les Français votent moins pour elle. Cette droite-là. Après, la politique économique et sociale du président Macron, hein, qui est présenté comme un en même temps, présenté à l'origine comme un ni droite ni gauche, cette politique économique et sociale, c'est plutôt une politique de droite. Donc de quelle droite parle Diane? C'est ça le problème. Les mots ne sont pas que des mots, c'est les mots nous permettent de comprendre aussi une situation. Donc cette droite simple dont parle Diane, c'est quoi? À un moment, donne-nous des exemples, donne-nous des hommes et des femmes politiques, tu vois? C'est compliqué de répondre à une question qui est pas précise comme ça. La droite simple. C'est pas la droite des simplets, je suppose. C'est pas la droite des teubés, c'est pas ça que tu veux dire, je pense. La droite simple, c'est pas le PS, demande Falme. Du coup, vouloir la sécurité du pays, c'est d'extrême droite, demande Tartins. Non? Qui dit ça? Ah oui, le RN dit ça. Mais moi, personnellement, je trouve que la question de la sécurité en France, c'est une question essentielle. La question de la sécurité dans les quartiers, la question de la sécurité abîmée par le trafic de drogue dans plein de villes, c'est un vrai sujet, par exemple. Et ça fait pas de moi quelqu'un d'extrême droite. C'est l'extrême droite qui tient ce discours. Qui veut te faire croire que la solution, c'est eux. J'aime bien ce petit débat introductif d'échauffement là. Merci de V14. Salut Taïwan. Petit échauffement du chat. Et on n'a pas commencé le sommaire. Alors, est-ce que je vous propose un sommaire maintenant? Est-ce que je vous dis de quoi on va parler ce matin? Bien ce petit échauffement, j'ai bien aimé. Je vous dis de quoi on parle? Merci Zinedine. Cette phrase est incroyable, merci Zinedine. Ça part? Ça part, Liam? Eh ben c'est parti. Bienvenue dans la matinée, Étienne. Ça fait 5 ans que tous les jours, et vraiment tous les jours désormais, du lundi au vendredi, on lit les journaux. On lit les journaux ensemble. Quels journaux? J'ai la presse quotidienne nationale, donc je vous la montre. Hop, c'est celle-ci. Alors je pourrais vous lire. Attends, je vous mets ça aussi sur TikTok, les chouchous. C'est celle-ci. Je pourrais lire la presse quotidienne régionale, qui est excellente. Je pourrais lire la presse quotidienne magazine, qui est excellente. Je pourrais lire la presse sur Internet, qui est souvent excellente aussi. Je pense à Mediapart, auquel je suis abonné. Je pourrais lire la presse internationale, qui est excellente aussi. Mais on ne peut pas tout lire. Et donc j'ai fait un choix et je lis la presse quotidienne nationale, qui est une presse que j'aime bien, presse généraliste, qui parle un peu de tous les sujets tous les matins, ce qui nous fait une grosse matière, actualité internationale, nationale, politique, économique, sociale, culturelle, sportive, tech, etc. Donc je lis, c'est mon petit plaisir, Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. Ces journaux, je les aime bien, je les trouve intéressants. Si vous les aimez pas, eh bien, à vous de créer une autre revue de presse, mais je peux pas tout faire. On fait ça tous les matins. On commence par un sommaire. Je vous dis de quoi on va parler. Et puis après, eh bien, on rentre dans le détail, on lit ces articles et on échange. Voilà. La façon la plus chill possible, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout. Alors. On va commencer par quoi? Bah, évidemment, on va revenir sur la journée de mobilisation d'hier, hein, les grèves du 18 septembre. Est-ce qu'il y a eu du monde dans la rue? Plutôt oui. Est-ce qu'il y a eu des grèves importantes? Je dirais plutôt oui. C'est le constat de la Croix, ici. Hein, les habitués des journaux reconnaissent à la police choisie, à la mise en page le journal. La rue impose au gouvernement un rapport de force. Donc, on lira ce papier de la Croix, qui est un papier un peu factuel, qui donne un petit peu. Une photographie de la mobilisation d'hier. Ensuite, sommaire toujours, on ira voir le Parisien. Et maintenant, bah ouais, c'est bien beau la mobilisation. Entre 500 000 et 1 million de personnes ont manifesté dans toute la France hier. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelles conséquences? Notamment sur le jeu politique. Justement, le Parisien en parle et estime que le nouveau Premier ministre, dont on attend toujours le gouvernement d'ailleurs, hein, dont on attend toujours les ministres, est poussé à dévoiler son jeu. Parce qu'on a un nouveau Premier ministre, mais que veut-il faire? Bah on ne le sait pas. Zabouron vient de crier très fort, je me casse car vous m'ignorez. Bon les gars, vous êtes 422 sur TikTok, 2400 sur Twitch, alors il y a des messages que je rate. Hein. Zabouron est un peu victime du syndrome du personnage principal. Donc, le problème de Le Cornu, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qu'il veut faire. C'est un peu embêtant quand même. D'avoir un Premier ministre dont on ne connaît pas la politique à venir. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu là-dessus, sachant qu'on n'a pas toutes les réponses. Pourquoi ils ont manifesté? Il y a beaucoup de journaux ce matin qui sont allés à la rencontre des manifestants pour leur demander pourquoi ils ont manifesté. Alors, ce qu'on constate, c'est que bah, tout le monde ne va pas manifester pour les mêmes raisons. Voilà. On lira La Croix, on lira Le Parisien. J'aime bien. Il parle mal quand même, comme pour un présentateur, dit senteur de parfum. Bah oui, t'es pas sur France 3, chouchou, là, c'est pas l'ORTF. Hein. C'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Hein. De toi aussi, tu peux dire ce que tu veux sur ta chaîne. Hein. C'est un peu le principe, si tu veux. Donc, si ça te plaît, tu restes. Si ça te plaît pas, eh ben, tu retournes, je sais pas où, moi, d'ailleurs. Où tu veux, en vrai. Donc, on lira La Croix, on lira Le Parisien, et puis on lira Libération, qui estime que c'est un avertissement. Salut, Notube. La mobilisation réussie, estime Libé, des syndicats, met la pression sur le nouveau Premier ministre qui poursuit ses consultations. Toujours cette interrogation, mais que va-t-il faire ce Premier ministre? La rue interpelle le cornu, on voit que Le Parisien et Libération sont d'accord sur cette analyse, quoi. L'Humanité, voilà, différents journaux, différentes lignes de éditoriales. Là, on est sur un journal qui est engagé à gauche, qui est un journal historiquement communiste. Et qui parle d'un ultimatum, lui aussi, à la rue contre le gouvernement, un mouvement contre l'austérité. Hein, c'est vrai que globalement, un peu dark ce matin, notre Samuel. Bah, en même temps, j'ai raté le Silver hier soir. Donc, si tu veux, je laisse rien passer ce matin. Hein, toutes les têtes que j'ai pas réussi à mettre hier soir, je les mets ce matin sur l'actu. Voilà, vous êtes prévenus. Donc, contre l'austérité, démonstration de force, c'est le dossier de l'humanité. Alors, il y a ce discours-là de gens mobilisés. Pour dire que la politique menée en France, elle est trop libérale, économique. Libérale, conservatrice, qu'elle ne s'occupe pas assez des plus fragiles, qu'elle privilégie plutôt les riches, les puissants, les grandes entreprises. Et puis, donc c'est plutôt ce qu'on entendra dans les paroles de manifestants. Voilà. Et puis, on a un monsieur dans Les Échos qui s'appelle Éric Le Boucher qui n'est pas d'accord, qui dit que les Français se trompent, voilà, que globalement, ça va pas si mal. Et que c'est très français de toujours voir ce qui ne va pas, et plutôt que ce qui va, notamment par rapport aux autres pays. Voilà. Donc ça, c'est ce que pense Éric Le Boucher dans Les Échos, et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Toujours dans le sommaire, vous voyez, après ce sujet, je vous parlerai de la Palestine, sujet dont je vous parle quasi quotidiennement, assez longuement. Et puis souvent dans le chat, quand je vous dis que dans quelques jours, plusieurs pays, dont la France, vont reconnaître, enfin, dirais-je, l'État de Palestine, condition sine qua non du retour de la paix un jour dans cette région, hein, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, vous êtes nombreux à me demander, mais qu'est-ce que ça va changer la reconnaissance par la France, par exemple, de l'État de Palestine? Eh bien, il y a un article dans Le Monde qui se penche là-dessus. C'est Michel Duclos, qui est un ancien diplomate, qui est essayiste. C'est joli ce que je viens de faire, hein. J'ai pas fait exprès. Qui nous dit pourquoi la reconnaissance d'un État palestinien, c'est important. Donc, merci Quentin sur Régal. Donc, on lira cet article. Alors, ça, c'est grâce à vous. Et d'ailleurs, je vous invite à faire la même chose. Hier, beaucoup d'entre vous, dans les deux chats, Twitch et TikTok, m'ont dit, mais tu parles pas de la mise à pied de Jimmy Kimmel aux États-Unis. J'étais pas trop au courant, il n'y avait pas d'article. Pas en tout cas dans les journaux papier PDF. Et on allait trouver sur Internet un article dans Le Monde qui était assez complet. Voilà. Sur pourquoi Jimmy Kimmel, humoriste vedette aux États-Unis, avait été suspendu. Donc il y a un article dans Libération qui revient ce matin. On le lira. Et d'ailleurs, ce matin, s'il y a une info dont je parle pas, une info essentielle qui est tombée et dont je parle pas, n'hésitez pas à me la proposer. On peut aussi l'avoir, quoi. Voilà. Jimmy Kimmel. Et puis, une dernière actu. Alors moi qui me hype pas trop, mais peut-être que c'est moi qui me trompe, c'est la question que je vous poserai. Les lunettes du futur. Meta fait un pas vers le futur avec ses lunettes, c'est un site du Figaro. Les Ray-Ban Display illustrent l'ambition du groupe, concevoir les appareils qui remplaceront le smartphone. J'ai raté un truc. Ah oui, de temps en temps, je vais dans des endroits ou dans des tournages et je vois des gars. Là, récemment, je suis allé à un tournage d'une vidéo d'un youtubeur et il y avait un gars dans l'équipe qui avait des lunettes et qui me dit, ah, je te préviens, je filme. Moi, je n'en ai pas. Pourquoi c'est important ce truc? Pourquoi les médias en parlent? À la fin de l'article, j'ai trouvé un chiffre. le marché mondial des lunettes intelligentes, évalué à près de 2 milliards de dollars en 2024, pour atteindre 8,26 milliards par an d'ici la fin de la décennie. Là, je sèche. C'est quoi ces trucs? Twisted Art nous rappelle que Google avait déjà fait un truc similaire il y a quelques années. En vrai, c'est un gros flop. C'est pas fou encore, me dit Trabucaire, mais ça avance vite. Lunette intelligente, mais le cerveau derrière, on n'est pas sûr, dit 77 Tsubasa. C'est de l'espionnage, dit John John. Tes lunettes y ressemblent bien, dit M22. Voilà. Tu as des lunettes actuellement, Samuel, avoue que tu nous filmes. Eh bien, oui. Je ne vous l'ai jamais dit, mais je vous filme. Voilà. Et toutes ces données que je filme avec mes lunettes, voilà, vos pseudos, vos commentaires, oui, j'avoue, je les vends. Je les vends. Hein. Aujourd'hui, la plus grande richesse, c'est l'information. Je les vends, je les vends, je ne sais plus à qui je les vends, mais je les vends. Je les vends à des grands groupes. À des grands groupes. Je ne sais plus qui exactement. À des grands groupes, je ne sais pas ce qu'ils en font. Et là, je suis en train de vous filmer, par exemple. Et ça me rapporte des milliards. Voilà. Et là, au moment où on parle, je vous filme. Badit dit, je vais mettre un slip alors. Oui, tu ferais bien. Autant enregistrer sur OBS. Je ne sais pas de quoi je parle. Non, je suis un peu dubitatif, cette histoire de lunettes. Là. En gros, on tombe sur les articles qui nous disent que ce truc va révolutionner notre life. Les lunettes du futur, je sais pas quoi, là. J'ai pas bien compris, moi. Alors, j'aimerais bien qu'on en parle, on va lire l'article, et vous me direz votre avis, parce que vous avez sûrement... Vous savez sûrement forcément tout ça, quoi. Voilà, le sommaire. C'est beau ou c'est pas beau? Pourquoi tout filmer? Mais je sais pas, oui, si, justement, il faudra m'expliquer, j'ai aucune idée, moi. Je vois pas trop l'intérêt, en vrai. Ça va remplacer les smartphones. C'est bien les smartphones. Qu'est-ce qui va pas avec les smartphones? Le fait d'être des caméras ambulantes, ben oui, Gwendam, j'ai pas envie que d'être entouré de, quand je me promène, de milliers de caméras, moi. Je sais pas. Oui, je sais, j'ai compris, il y avait même un écran dedans, on aura un écran dans les lunettes avec plein d'infos, etc. et tout, mais bon. La traduction instantanée? Ok, ça c'est intéressant, mais il y a les petits écouteurs qui font ça aussi. C'est pour se libérer les mains. Hein? Quoi? Surtout, je pense. Qu'est-ce que tu veux faire avec tes mains? Pourquoi t'as besoin de tes mains? C'est... Hein? Pourquoi? C'est quoi le... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Salut. Salut, John McClane. Pourquoi tu veux libérer tes mains quand tu regardes des vidéos? C'est quoi cette histoire? Sur quoi tu veux nous emmener là? Hein? Tu viens littéralement de dire ouais, c'est quand je regarde mon smartphone, c'est pour me libérer les mains. C'est-à-dire. C'est que, concrètement, qu'est-ce que tu. C'est ça que tu es en train de nous dire? C'est ça que va vous apporter ces lunettes là? Eh ben, c'est du propre. Pour faire la vaisselle, me dit Pantoufle. Fais attention parce que je te rappelle que tout sera filmé. Hein. Ouais, je sais pas, je suis dubitatif, peut-être que je me trompe. Bon, est-ce qu'on commence à lire les journaux? Regardez, je vais sur ma petite flèche. Tac. Voilà. Hop, le sommaire. Alors, on vient de faire le sommaire, incroyable, et maintenant on va partir sur les grèves. Hop. Bon, je vous préviens, je suis d'humeur chafouine. Hein. J'ai raté le silver hier sur Valorant. Donc je peux vous dire qu'il va falloir que ça file droit dans le chat. Hein. Là, ça va être... Ok? Ok? Attention. Hein. Ras-le-bol de ce jeu-là. Donc je suis colère. On y va? Chef, oui, chef. Voilà, c'est ça que je veux. Que nenni? On va voir ça. Hein? Ça se voit ton humeur chafouine, si je peux me permettre. Ah bah tu peux te permettre. Je suis d'humeur chafouine. Il y a OCB91 qui met un message qui régale. que je partage. C'est bien ta rubrique revue de presse. Tu donnes la parole aux jeunes plutôt qu'aux boomers. Bon, enfin, il y a des boomers ici aussi. Hein. On les aime d'ailleurs. Tu dois avoir un paquet de conneries en commentaire. Non. Non, non, non. Non. Bon. Oh, bon, non. Ah non, non, non. Ah non. Un petit peu. Mais au moins, tu essaies de les intéresser aux sujets importants plutôt qu'au ratio mort-kill sur les jeux vidéo. Attention, le ratio mort-kill sur les jeux vidéo, c'est très important. Hein. Et là, je ne plaisante pas. Après, on sait très bien que le présentateur choisit sa ligne éditoriale pour influencer les opinions que tu te situes haut politiquement. Ça aussi, c'est juste. Je ne cesse de le répéter. Les informations que je vous présente, ce sont les informations choisies par Samuel Etienne. Je choisis certaines informations, et pas toutes, selon ma sensibilité, mes valeurs, mon parcours, mes lectures, ma philosophie, voilà, ma liberté de penser, disait le poète. Et je choisis certaines infos, et je choisis certains articles. Donc évidemment que tout cela... est subjectif et éminemment subjectif. Donc prenez-le comme vous le voulez, voilà, vous le validez, vous le validez pas, mais on est ici en fait pour discuter. Et moi je ne propose qu'une lecture, qu'un regard sur l'actualité. Bien sûr. Voilà. Allez, on y va, on revient sur la journée d'hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour La Croix et pour d'autres journaux, la rue hier a imposé un rapport de force au gouvernement. Après le succès en demi-teinte du mouvement Bloquons Tout, hein, c'était le 10 septembre, qui n'a pas été un flop, mais qui n'a pas tout bloqué, on est d'accord. Les syndicats, eux, ont montré hier leur capacité à rassembler la colère sociale. Partout en France, alors les chiffres diffèrent selon les sources, hein, syndicats, police, vous savez ça, plus de 500 000 voix, écrit La Croix, sont élevées en défense des services publics et de la justice sociale, puisque c'était parmi les principaux mots d'ordre. Fort de cette mobilisation, bah les partis de gauche espèrent peser sur l'organigramme et le budget du futur gouvernement. C'est la grande question. On a un nouveau Premier ministre après le fait que Bayrou se soit cassé la figure. Que va faire Sébastien Lecornu ? Bah pour l'instant, je ne le sais pas. Lisons un peu l'article. Mais là, on a un petit peu l'essentiel. Des cortèges qui rappellent les grandes heures de la contestation contre la réforme des retraites. C'est des chiffres qui n'avaient pas été atteints depuis effectivement la mobilisation des Français contre la réforme des retraites. Après la mobilisation décevante du mouvement Bloquons Tout, le 10 septembre, les syndicats ont montré hier leur capacité à rassembler, à organiser la colère sociale exprimée par les annonces budgétaires, après les annonces budgétaires de Bayrou à l'été, perçues comme de l'austérité. Dans les sondages, les Français ne semblaient pas super valider les 44 milliards d'euros d'économies voulues par Bayrou pour réduire la dette française, estimant notamment pour beaucoup que l'effort n'était pas partagé par tous, qu'on demandait des efforts aux retraités, aux salariés, aux titulaires des minima sociaux, aux demandeurs d'emploi, mais pas aux plus riches, pas aux ultra-riches et pas aux grandes entreprises, hein, pour résumer. La CFDT, Marie-Lise Léon, dit par exemple que pour elle, c'est un avertissement pour dire à Sébastien Lecornu qu'on attend des réponses. S'il ne compose pas avec la rue, il finira à la rue, dit-on du côté de la CGT, Sophie Binet. Dans les cortèges, la diversité des manifestants, ça je trouve ça important, reflétait celle des mots d'ordre d'un mouvement où se rassemblent beaucoup de choses. Tout le monde n'a pas manifesté pour les mêmes raisons, c'est une évidence, quoi. Certains manifestaient pour la défense des services publics, d'autres pour la défense de notre modèle social, d'autres pour une aspiration à plus d'équité, hein, notamment en matière fiscale, parfois pour tout ça. Et parfois pour des revendications beaucoup plus précises encore. Moi, par exemple, si j'avais manifesté hier, mais je n'ai pas fait parce que je voulais vous parler de tout ça hier matin, donc si j'avais fait grève, j'en aurais pas parlé, ça aurait été un peu paradoxal. Moi, par exemple, si je manifestais, c'était pour qu'on change les règles de Valorant. Il y a un problème de matchmaking, il y a un problème de... ça ne va pas. Hein, moi, je suis nul, j'aimerais jouer avec des gens nuls. Hein, j'en ai marre de tomber sur des golds ou que sais-je encore, quoi. Moi, je manifesterais pour ça, par exemple. J'en peux plus, hein. Le vrai scandale de notre pays, c'est ça, et personne n'en parle. Ah. Donc, par exemple, là, on a un infirmier au CHU de Montpellier qui a manifesté, qui raconte comment il voit la prise en charge des patients se dégrader petit à petit depuis ses débuts en 2018. Hein, si vous avez eu affaire à l'hôpital public, ces derniers temps, vous ou vos proches, je pense que vous avez fait ce même constat. Hein. Ce n'est pas faire injure au personnel hospitalier qui est incroyable, qui fait ce qu'il peut, qu'il y a, y a peut-être un, y a un problème d'organisation et de moyens, et ou de moyens, et que les conditions de travail et d'accueil à l'hôpital public se sont dégradées hein, ces dernières années. Hein? Cet infirmier dit encore, il faut se rendre compte que depuis des années, l'hôpital subit des attaques budgétaires importantes qui a des conséquences sur les conditions de travail et donc la prise en charge des patients. C'est une politique d'austérité, dit-il, contre laquelle je m'élève. Un autre couple d'infirmiers, tiens, en psychiatrie cette fois, alors ça, la psychiatrie en France, on pourrait en parler pendant des heures aussi, dit c'est toujours aux salariés de payer. Eux sont venus manifester pour défendre la situation de l'hôpital, des services publics en général. On nous a mis la dette du Covid sur le dos et dans le même temps, l'impôt sur la fortune a été supprimé, relève-t-il. Ils constatent une dégradation de leurs conditions de travail ainsi qu'un coût de la vie toujours plus élevé. Nous sommes tous aspirés vers le bas, dit à la croix un ingénieur de 51 ans, voilà, qui craint d'être licencié tôt ou tard, vu le contexte économique et social vraiment tendu. Passer 50 ans pour un salarié, ça peut être un peu compliqué en France, vous le savez. En France, c'est compliqué sur le marché du travail pour les juniors, pour les jeunes et pour les seniors. Donc je vous lis quelques propos de manifestants. Jean-Luc, par exemple, qui a tenté d'éviter sans succès la fermeture de la papeterie dans laquelle il travaillait, et il nous dit, il n'y a jamais eu autant d'inégalités, les gens ne s'en sortent plus, même en travaillant, ils sont stressés au boulot, chez eux, il faut un minimum de respect pour qu'on s'en sorte, on recule l'âge de la retraite, on ne reconnaît plus la pénibilité, c'est bon là, la solidarité, ça doit se faire des deux côtés, dit-il. Ce qu'on propose de prendre aux plus riches, fameux Stack Zuckman, franchement, ce n'est rien du tout, dit-il. Christian, à ses côtés, milite effectivement pour cette adoption de la taxe Zuckman, dont on a beaucoup parlé, prélèvement annuel de 2% sur le patrimoine des 1800 ménages français les plus riches, hein, au-delà de 100 millions d'euros de patrimoine. Christian dit « Il faut tenter quelque chose, sinon l'amertume va se transformer en colère et en violence ». Sid Pagru nous fait profiter de son analyse éditoriale et dit la taxe Staline. Alors Staline est mort. Info. Il y a un côté indécent, dit encore la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, un côté indécent dans le débat sur la taxation des très hauts revenus, alors qu'on veut faire 4 milliards d'économies sur l'assurance chômage, par exemple. Beaucoup dans les manifestants confient, ça c'est un petit peu embêtant, ne plus croire dans la politique. La nomination de Le Cornu ne résoudra pas les problèmes d'un pays de plus en plus ingouvernable, marqué par une très forte colère grondant par le bas, une immense faiblesse politique en haut. Bon, c'est vrai que la faiblesse politique actuellement, elle est réelle. On a un président dont la parole, c'est pas méchant ni agressif de le dire, on a un président de la République qui, par ses décisions, ses choix ou ses non-choix, et dont la parole est démonétisée aujourd'hui, hein, plus, il n'est plus beaucoup entendu ni écouté. Les premiers ministres, les gouvernements qu'il nomme restent quelques mois au pouvoir, faute d'une majorité pour les soutenir, à l'Assemblée, fruit d'élections législatives qui n'ont pas donné les résultats attendus pour le chef de l'État. Et pour cause, il s'y est pris comme un manche, hein, pour dire les choses. Voilà. Donc on a une situation politique qui est compliquée, qui est insuffisante, cette donne politique pour répondre aux défis de notre pays, et le président Macron a une responsabilité là-dedans, évidemment. Alors, la question qu'on se pose ce matin, c'est ok. Mobilisation, centaines de milliers de personnes dans les rues, grève, etc. Et maintenant, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui va se passer? Si l'intersyndicale n'avait pas encore défini hier après-midi la suite, qu'elle entend donner? Toi, Samuel, ça te paraîtrait juste si tu étais plus taxé? Je fais partie de ces Français un peu bizarres qui aiment bien payer des impôts, mais c'est très étrange. J'ai remarqué que Au fil des années, quand je payais beaucoup d'impôts, en général, c'est parce que je gagnais plutôt très bien ma vie. Et puis quand je payais moins d'impôts, ça m'arrive aussi, bah, c'est que je gagnais moins bien ma vie. Et l'un dans l'autre, je préfère les moments où je paye beaucoup d'impôts. Il m'en reste toujours plus. Donc ça m'a jamais dérangé trop, moi. Donc, la suite. Si l'intersyndicale n'avait pas encore défini jeudi après-midi la suite qu'elle entend donner au mouvement, l'avenir de cette mobilisation, inédite depuis la réforme des retraites, début 2023, plus d'1 million de manifestants avaient été recensés à 4 reprises par le ministère de l'Intérieur, dépendra donc de ce que décidera le prochain gouvernement. Pour la suite, je n'exclus rien, dit-on du côté du syndicat solidaire. Bon, on verra. Le problème n'est pas le fait de payer des impôts, mais qu'on ne voit plus à quoi ça sert, dit Agent 47. Il y a un problème d'acceptabilité de l'impôt, effectivement, en France, voilà, qui est en train de monter, de se développer. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que chaque euro taxé, il est bien utilisé. Hein. Une des choses que nos gouvernants doivent faire, et qu'ils ne font pas tout à fait, c'est effectivement de surveiller l'utilisation de l'argent public. Il y a un débat aujourd'hui sur les quelques 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises chaque année en France. Et même du côté des syndicats patronaux, on dit oui, il n'est pas impossible qu'une partie de cette somme n'est pas forcément bien utilisée. Donc il y a quelque chose qui est mal fait en France et qui du coup affaiblit le consentement à l'impôt pour ceux qui payent des impôts, hein, parce qu'il y a plein de gens en France qui ne payent pas des impôts parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Et effectivement, la classe politique, en tout cas nos gouvernants, ils ont failli là-dessus. C'est-à-dire que je pense que dans le suivi de la manière dont l'argent est prélevé, taxé et dépensé, il y a sûrement des choses qui ne vont pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce que cela doit remettre en cause le fait, quand on a de la chance d'avoir un certain revenu, de devoir payer des impôts? Là, je ne pense pas. Moi, par exemple, j'ai la chance de bien gagner ma vie, parce que j'ai la chance de travailler dans un secteur d'activité où ça le faisait plus tôt. Et ça ne me gêne pas pour ceux qui n'ont pas cette chance de donner une partie de mon revenu, quoi. Après, si cet argent pouvait être utilisé au mieux, ce serait encore mieux. Là, on a un sujet là. C'est vraiment une chance de bien gagner sa vie? Bah, demande à ceux qui la gagnent mal, et si tu en as autour de toi, je pense qu'ils répondront à cette question. Il manque vraiment un site mis à jour tous les mois avec entrée et sortie d'argent de l'État. Pourquoi pas, VB Fox? Pourquoi pas? Hein? Les gouvernants se plaignent d'une baisse du consentement à l'impôt en France, d'une montée de la fronde contre l'impôt, hein, pour ceux qui le payent. Bah, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, quoi. Savoir à quoi sert l'argent qui est ponctionné, quoi. Je vous lis, hein, je vous lis. Il y a beaucoup de messages, je vous lis. Je réponds avec mes petits moyens, j'ai pas forcément réponse à tout. Hein. Transparence dans les dépenses, rien ne vaut la méthode à la Scandinave. Je suis assez d'accord, l'a dit Bon Sim. Ouais, on doit sûrement s'inspirer des pays nordiques sur le sujet. Ouais. La France est un des pays, pour ceux qui l'ignorent, les plus redistributifs au monde. Voilà. La France est un des pays. Alors, dans les pays de l'OCDE, on a un taux de prélèvement qui est parmi les plus élevés. Et quoi qu'on en dise, la France est un des pays qui redistribue le plus. Alors qu'il y a des inégalités dans notre pays, mais qui sont compensées pour partie par une redistribution importante. Donc les gens qui disent que ceux qui ont ne contribuent pas, c'est faux. Alors après, on peut leur demander de contribuer encore plus, hein, c'est un débat. Et ceux qui disent que cet argent ne sert à rien, c'est faux aussi. Voilà. Donc, notre pays est caractérisé par ça. Alors après, est-ce que cette redistribution est efficace? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'améliorer? Est-ce qu'on ne pourrait pas moins dépenser et mieux redistribuer? Sûrement, oui. Je pense que c'est un sujet sur lequel les gouvernants devraient travailler parce que ça crée énormément de débats et de colère dans l'opinion publique. Alors, justifié ou pas, mais j'ai envie de dire peu importe. Parce que s'il y a colère, s'il y a ressentiment, si les gens disent ont ce sentiment très partagé dans la population française que l'argent prélevé il est mal dépensé, que ce soit vrai ou faux, c'est un problème. Parce que ça crée de la tension, ça crée des divisions, ça baisse le consentement à l'impôt, ça crée une société polarisée, et donc ça veut dire que les politiques s'en sont mal occupés. Hidalgo, on en a parlé hier, ouais, les dépenses d'Hidalgo. Le gouvernant, il est là pour répondre aux problèmes qui se posent à un pays, mais aussi aux inquiétudes, aux angoisses, aux colères de la population. Oui, mais c'est redistribuer aux personnes qui ne contribuent pas aux impôts. Oui, c'est le principe HK, oui. La redistribution, c'est prendre à ceux qui ont pour donner un peu à ceux qui n'ont pas. Voilà, c'est exactement le principe de la redistribution. Bon, on peut avancer, je crois qu'on est d'accord là-dessus, quoi. Alors voilà pour le constat de la Croix. Et donc la Croix se demande à la fin de son article, bon ben quid de la suite, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les syndicats disent on est prêt à remobiliser, on maintient la pression. La pression contre qui? Bah contre un homme pour l'instant, Sébastien Lecornu, il est bien tout seul, puisqu'il a été nommé par le président Macron, mais il n'a pas encore de ministre, il n'a pas encore formé son gouvernement, et beaucoup plus grave, on ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Voilà. Est-ce qu'il va avoir une politique économique et sociale libérale, hein, dans la veine de ce que le président Macron mène depuis son premier mandat? Est-ce qu'il va teinter cette politique de mesures de gauche, notamment sur le plan fiscal, pour obtenir le soutien explicite ou implicite de la gauche, notamment les socialistes, les écologistes et les communistes, pour ne pas faire sauter le gouvernement? C'est la grande question. C'est la grande question du moment. L'équation... Alors, manifestement, question difficile, puisque la Croix dit l'équation quasi insoluble de Sébastien Lecornu face à la gauche. Ça rend fou la politique. Ah bah oui, Shadow, ça, on est bien d'accord. C'est des sujets compliqués. Hein. C'est des sujets plus t'y penses et moins t'as la réponse. Mais bon. Après avoir été reçus à Matignon pour échanger avec le Premier ministre, les partis de gauche, puisque les socialistes, les écologistes, les communistes ont été reçus par Lecornu, LFI, ils n'ont pas voulu y aller. Ils ont dit, nous on discute pas avec ces gars-là, LFI... Comme le RN, pour des raisons différentes, ils veulent des nouvelles élections, législatives ou présidentielles. Ils disent, on ne veut pas participer à ce truc-là. Okay. Donc les partis de gauche, dont je précise lesquels, hein, socialistes, écologistes, communistes, restent dans l'attente et continuent à mettre la pression sur Lecornu, qui reste discret sur ses intentions. Un simple tour de chauffe. Jeudi 18 septembre, journée de mobilisation intersyndicale, Lecornu a clos son premier tour de consultation des forces politiques, semaine de rendez-vous à Matignon avec chaque parti, excepté, je vous le disais à l'instant, parce que je dis beaucoup de conneries, mais pas que des conneries, la France Insoumise, qui a décliné l'invitation pour tenter de trouver une voie de passage permettant une non-censure, hein, que le gouvernement puisse durer un peu. Conclusion, rien. Nada, Kutchi, Walou, aucune avancée dans un sens comme dans l'autre. Ces derniers jours, le Normand, donc Lecornu, il est Normand, bon, a fait honneur à son caractère de taiseux, ça n'est pas un bavard. À la sortie de chaque huis clos, les observateurs décrivent un Premier ministre à l'écoute, mais qui ne dévoile rien de sa feuille de route, encore en construction. Voilà. On ne sait rien. Donc, littéralement, je suis en train de parler de trucs, je suis en train de pendant des heures, vous dire qu'on ne sait pas quoi. C'est mon travail, c'est ce que je fais de mieux. décrit comme la dernière cartouche du chef de l'État. Cette expression est un petit peu étrange. Hein. La dernière cartouche. Il se dit que si ce gouvernement-là saute à nouveau, ce sera compliqué pour le président Macron de ne pas convoquer de nouvelles élections. C'est ce qui se dit, législative, voire même présidentielle. Donc, dernière cartouche. Le cornu. Décrit comme la dernière cartouche du chef de l'État, l'actuel Premier ministre sait qu'il avance depuis sa nomination avec un coup près au-dessus de la tête. La France insoumise a déjà annoncé son intention de déposer une motion de censure lors de la prochaine session parlementaire. Tandis que de l'autre côté, Marine Le Pen menace de ne lui laisser que quelques semaines avant une éventuelle censure. Dans ce contexte, le chef du gouvernement sait que sa survie est entre les mains, c'est ce que je vous disais, du reste de la gauche, donc hors LFI, et d'une partie des Républicains, LR, la droite simple dont Diane nous parlait tout à l'heure. Aucune raison donc, au risque d'en froisser plus d'un, de dévoiler ses cartes. C'est un fin politicien, a admis Marine Tondelier du côté des écologistes. On sent sur la forme et la qualité des échanges une grosse rupture avec son prédécesseur. Bayrou n'était pas tellement dans l'échange. Bayrou. C'est ce que lui reprochaient notamment les partis d'opposition. Mais si lors de ses échanges avec la gauche, donc. Ah, les Foo Fighters, Cold Nico, ça c'est beau. Certaines mesures devenues phares comme la taxe Zuckman, la réforme des retraites ou un éventuel plan de relance ou les sujets environnementaux ont bien été abordés lors des discussions, Sébastien Lecornu n'a dévoilé aucune piste précise à ses interlocuteurs. Le sphinx. Pas même sur l'effort global attendu, alors que la piste des 44 milliards d'euros d'économies semble désormais caduque. J'ai un article là-dessus, je ne vous l'ai pas mis de côté, mais sachez que ce que la presse nous explique, c'est qu'a priori, finito les 44 milliards d'euros d'économies voulues par Bayrou. C'est trop, estime Lecornu. Ça bouscule trop, ça chagrine trop. On irait plutôt sur du 35-36 milliards, quoi. Notamment les fameux deux jours fériés supprimés, là, c'est finito. Dès lors, en l'absence d'avancée, puisqu'on ne sait pas où on va, chacun à gauche maintient sa ligne entre échange républicain et menace de censure. Voilà. En gros, du côté des socialistes, des écologistes, des communistes, on dit bon, allez, Sébastien, babasse, c'est diminutif, il faut que tu nous dises où tu ailles. Avant qu'on te dise si on te soutient ou pas, si tu sautes ou pas, dis-nous où tu veux aller, quoi. Babasse. Et on met la pression. Pour Sébastien Lecornu, la voie de passage est en train de devenir un trou de souris. Je vous lis. C'est intéressant. Et Alex 02 qui dit Sam, j'avais une interrogation sur le fait que Macron a nommé un ministre de son camp. Donc plusieurs même. Hein. Il y a eu qui ? Il y a eu Attal, il y a eu Bayrou, il y a eu donc Le Cornu. J'en oublie peut-être parce que ça va très vite en ce moment. Je suis un peu perdu moi. Au lieu d'avoir écouté le vote des Français. Et Alex me dit, est-ce qu'il a violé la Constitution ? Ah oui, Borne, t'as raison. Et du coup, est-ce qu'on est encore dans une démocratie ? Très bonne question d'Alex. Alors, que dit la Constitution ? La Constitution de la 5e est très claire. Celui qui décide du nom du Premier ministre, c'est le Président de la République. Donc, le Premier ministre nomme qui il veut. Voilà. Il y a des régimes, notamment, je ne sais pas... Je pense notamment à la Grande-Bretagne, où c'est assez clair, est nommé Premier ministre le chef du parti arrivé en tête aux élections, quoi. Voilà. Il n'y a pas trop de débat là-dessus, quoi. Mais en France, la Constitution est claire, le président, il nomme qui il veut. Qui il veut. Voilà. Il peut choisir dans le parti arrivé en tête, mais il peut choisir la personnalité, c'est lui qui choisit. Ce qui donne d'ailleurs ce qu'on vit aujourd'hui. Qui a gagné les dernières législatives ? Qui a gagné ? Alors, si vous écoutez le RN, c'est le RN qui a gagné. Si vous écoutez la gauche, c'est la gauche qui a gagné. Bon, ça dépend quel chiffre tu regardes et ça dépend quel tour tu regardes, le premier ou le deuxième, nombre d'électeurs, nombre de députés, etc. Bon. Force est de constater que le président Macron n'a nommé ses premiers ministres précédents ni à gauche, ni au RN. Ah. Donc est-ce que c'est constitutionnel? Oui. Est-ce que c'est démocratique? Pas trop. Pas trop. Effectivement. À un moment, c'est là où je dis pour faire rire et pour résumer, parce que parfois il faut essayer de résumer aussi ses propos pour la rendre compréhensible. C'est là où je dis, bah, il s'est débrouillé comme un manche. Le président Macron, c'est quelqu'un qui fait un premier mandat, ok. Il se présente à un deuxième, il veut être réélu bien sûr. On se retrouve au second tour avec Marine Le Pen, donc avec le phénomène du barrage républicain, les castors, tout ça. Et finalement, le président Macron fait plus une campagne pour le deuxième mandat de barrage au RN, c'est ou c'est moi ou c'est elle, plutôt qu'une campagne où il vous dit voilà ce que je vais faire pendant 5 ans. Bon, sachant qu'en comme il venait déjà de faire 5 ans, bah, en gros son discours c'était bah, je continue dans la même veine finalement. Comment dire que c'est assez compliqué pour un président qui veut se faire réélire de dire les gars on va renverser la table, on va tout changer, le mec avant c'était un nul, je vais tout changer, vous allez voir parce qu'ils ont rien compris. Non, le mec avant c'est toi. C'est compliqué de faire rêver. En vrai, je me mets à sa place. Hein. C'est compliqué de faire rêver avec une campagne de deuxième mandat, sachant que tu peux pas dire que ça va être une dinguerie, une folie, un truc génial par rapport au mandat d'avant. Et pour cause, c'est toi. Donc, il fait une campagne, bon, une campagne qui est une campagne de réélection. Il est élu surtout bah parce qu'il fait, il est le représentant du barrage au RN, puisque c'est lui qui arrive au deuxième tour, et il est élu notamment avec plein de voix de gens qui sont pas macronistes. Il le dit lui-même puisqu'il dit c'était quoi sa phrase? Votre vote m'engage ou un truc comme ça. Il le dit même officiellement. Il dit à un moment, il dit j'ai bien conscience d'être élu aussi avec des voix de gens qui sont pas qui votent pas. Ouais, votre vote m'oblige. Ouais, votre vote m'honore et m'oblige, me dit le giganto. Il le dit. Et donc la conséquence de ça, ça aurait été quoi? À partir du moment où il se présente comme le candidat qui est le candidat du barrage au RN, puisqu'il est au deuxième tour face à Marine Le Pen, bah dans ce cas-là, je comprends qu'il ne prenne pas un premier ministre d'extrême droite, ça a du sens, puisqu'il se présente comme un opposant à l'arrivée au pouvoir du RN. Bon, jusque-là, c'est logique. Mais dans ce cas-là, puisqu'il se sent obligé, vis-à-vis notamment des électeurs de gauche, qui lui ont permis de rester au pouvoir... Bah, à un moment, il faut être logique, il aurait dû rentrer dans une forme de cohabitation en nommant à Matignon un premier ministre de gauche. Ce qu'il n'a pas fait. Et ce qu'il n'a toujours pas fait. Puisque Le Cornu est plutôt à la droite du camp macroniste. Donc, il fait ça, et c'est pas tout. Première erreur. Donc déjà, première erreur. Deuxième erreur, il ne fait pas campagne pour les législatives. Après la présidentielle. Il ne fait pas campagne. Il ne s'en occupe pas. Il disparaît. Il n'est pas vraiment là. Voilà. Il laisse faire les députés. Voilà. Après une campagne un peu mollassonne, il laisse faire les députés de son camp et puis il ne s'engage pas dans cette campagne. Il oublie un truc essentiel, c'est qu'un président, un exécutif qui n'a pas une majorité à l'Assemblée, c'est un roi nu, c'est un roi affaibli. C'est un président qui ne va pas pouvoir mener sa politique. Il oublie ce truc de base de la Ve République. Il oublie ça. Il ne s'occupe pas des législatives. Il ne s'en occupe pas. Résultat, il se retrouve avec une minorité réduite. Enfin, pardon, une majorité réduite qui n'est pas une majorité, une minorité relative qui ne lui donne pas les coups des franches pour gouverner, quoi. Et c'est de sa faute. Et c'est de sa faute. C'est-à-dire qu'il n'a pas suscité l'enthousiasme des Français pour que les Français donnent une majorité à l'Assemblée pour que sa politique puisse être soutenue, quoi. Et c'est de sa faute. Voilà. Et puis c'est pas tout, troisième faute, voilà. Comme ça lui plaît pas, mais ce qui est un peu de sa faute, il dissout l'Assemblée en disant ouais l'Assemblée elle est pas top, ouais mais c'est de ta faute chouchou. Et donc je vais demander aux Français de revoter et puis on va voir ce qu'on va voir. Voilà. Et résultat, il obtient un camp pour le soutenir à l'Assemblée encore plus faible que celui d'avant. Voilà. Donc, tout ça pour répondre à la question qui nous a été posée, est-ce que c'est constitutionnel et démocratique ce qu'il fait ? Donc j'ai répondu à cette question, puis je suis allé un petit peu plus loin pour vous dire que dans la crise politique que nous vivons aujourd'hui, il y a une part de responsabilité importante, de rien Alex, du chef de l'État. Alors, ce que je viens de faire avec Alex 02 illustre aussi pourquoi je ne réponds pas à toutes vos questions, parce qu'en fait, la plupart de vos questions sont pertinentes. La plupart de vos questions demandent une réponse, mais une réponse un peu circonstanciée et motivée et argumentée, ben, elle demande un petit peu de temps, quoi. Et c'est ce que nous permet Twitch et le live, également Twitch et TikTok. C'est pour ça que je réponds pas à toutes vos questions, parce que littéralement, chaque question mérite au moins 10 minutes, un quart d'heure de développement, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je m'excuse de pas répondre à toutes vos questions. Donc voilà, mission difficile pour le cornu. Moi, j'aimerais bien pouvoir me projeter dans 5 jours, dans 10 jours, dans 15 jours, et savoir à quoi va ressembler le Premier ministre, le gouvernement, pardon, de le cornu, et quelle politique qu'il va mener. Et maintenant, c'est aussi la question que pose le Parisien. Bon, ben, je pense que le cornu poussé à dévoiler son jeu, on a les éléments maintenant pour comprendre ça, hein. Vers une nouvelle journée de mobilisation, les syndicats n'excluent rien. Bon, on a compris, ok, tout va bien. L'édito, on va lire, d'Olivier Auguste. Un édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. Top. Et un avis, c'est toujours intéressant. Savoir si on trouve ça pertinent ou pas pertinent, quoi. On va privatiser France Télévisions et Radio France, dit Eric. Alors, y a un parti qui propose ça, effectivement, en France. La privatisation de France Télévisions et de Radio France. Un seul. Je pense qu'Eric le sait. Quelle est la question ? Demande Olivier Auguste. Apporter une réponse. Quel parti ? Ah bah c'est le RN. Il y a eu une personne en France qui, avec constance depuis des années, propose de privatiser France Télévisions et Radio France, c'est le Rassemblement National. C'est un truc... voilà. Reconquête aussi ? Non, mais on parle des partis qui sont en capacité d'arriver au pouvoir. Non, les gars, je veux pas... Arrêtez de vous moquer de Reconquête et d'Éric Zemmour. C'est vraiment pas sympa de jouer avec ses nerfs comme ça. Ne lui faites pas croire à un moment que... qui peut arriver au pouvoir. C'est pas bien ce que vous faites. Hein. C'est pas bien ce que vous faites. Hein. Non, parlons des partis qui sont en capacité de gagner les élections. Bah, on va pas s'intéresser à tous les micro-partis en France. Hein. On va plus en finir. Hein. Arrêtez de le torturer, le pauvre, là. Combien il a fait la présidentielle, j'ai oublié, moi. Combien il a fait ? 7%? Ah, quand même. Quand même, hein? Alors, quelle est la question? Apporter une réponse. Enfin, quand même, mais lui, il avait quand même dit qu'il serait au deuxième tour. Apporter une réponse, c'est ce qu'est censé faire un gouvernement après une importante journée de grève et de manifestation. C'est du moins ce qu'attendent les centaines de milliers de personnes qui ont participé, parfois en y perdant une journée de salaire. Apporter une réponse, mais quelle était la question ? Ah oui ? Très bonne question, c'est quelle était la question ? Les cortèges avaient ce jeudi un air de manif, moi, je, où chacun venait avec sa revendication personnelle. Je suis pas d'accord. Ah. Chaque individu a son histoire, sa sensibilité, ses valeurs... Et oui, il vient porter certaines idées. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont rassemblé ces manifestants ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse. Exemple entendu par nos reporters, pour la hausse des retraites, contre la guerre à Gaza, pour la taxation des riches, contre la baisse des marges des pharmacies, pour les droits des trans, contre la détérioration des conditions de travail des agents des espaces verts, pour la démission de Macron contre l'austérité. Bon. Si tu vas voir chaque manifestant, effectivement, et que tu le sondes, bah, tu vas avoir des gens qui ont des parcours de vie différents et qui vont avoir des revendications qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est un peu facile. C'est un peu facile. Je pense qu'il y avait quand même un trait d'union, un trait commun entre la plupart des gens qui ont manifesté hier. Hein ? Les slogans ne se concentrent sur aucune mesure précise. C'est pas tout à fait vrai. Dans l'immédiat, c'est une. Sébastien Lecornu est d'autant moins poussé. Hein, c'est quoi ça, la politique? Blablabla. Voilà. Le pays oscille entre lassitude, ouais, inquiétude et colère. L'antipathie envers la Macronie est avérée.
Ouais.
La défiance entre les politiques généralisées.
Ouais.
Si la mauvaise humeur diffuse n'est pas désamorcée, les syndicats parviendront-ils à le canaliser? C'est aussi le rôle jusqu'en 2027. Les extrêmes, en tout cas, se feront un plaisir de leur compliquer la tâche. Bon, je suis assez d'accord sur la fin du constat, mais de dire que chacun manifestait pour sa pomme, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Samuel, c'est qui le prochain président d'après toi? Ah bah ça c'est facile, psychonoïde. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Celle-ci, si je l'ai. C'est moi. Voilà, point d'exclamation 2027 dans le chat et vous avez mon projet. Dans le chat de Twitch. Je ne l'ai pas encore. Je ne sais pas si on va faire des bots sur TikTok. Salut, j'aimerais savoir où m'informer sur l'actualité gratuitement. Ici, l'IS. Dans ce genre d'analyse, Samuel, est-ce que tu penses que c'est écrit avec une sincérité, me dit David, ou qu'il y a une volonté de cacher ce fameux trait d'union? Non, je pense que le journaliste est sincère dans son analyse, mais je ne suis pas d'accord avec son analyse. Et à propos de bonnes nouvelles, puisque je viens d'annoncer qu'une des bonnes nouvelles pour notre pays, c'est que j'allais être président en 2027, l'autre bonne nouvelle, c'est que cette revue de presse arrive en podcast à partir de lundi. Dès 16h, le temps de mettre ça en ligne, vous aurez cette revue de presse tous les matins, du lundi au vendredi. Elle arrivera à partir de 16h sur toutes les plateformes de streaming, hop, dans les transports, dans la rue en marchant, au boulot, tranquillou, plus besoin de mettre Twitch, YouTube, les replays, que sais-je, hop, voilà. Sur toutes les plateformes de streaming. Hop. Non, c'est vous qui me l'avez demandé, ça fait des années, j'ai enfin trouvé les gens pour le faire avec moi. Voilà, ça va être super carré. Voilà. Alors, bon, là, je pense que l'article va pas nous donner de nouvelles infos par rapport à ce qu'on a lu. Voilà, on a là encore un journal qui est allé voir les manifestants pour demander pourquoi ils manifestaient. Voilà. Alors, là où le journaliste du Parisien a raison, c'est qu'il y a des gens dans la rue qui revendiquent des choses différentes et parfois contradictoires. Par exemple, vous avez des jeunes manifestants qui vont dire « Les gars, il faut taxer les retraités, on n'en peut plus des boomers. » Et les boomers qui disent « On n'est pas les oranges, arrêtez de nous presser, quoi. » Voilà. Donc, ça, c'est pas complètement faux. Hein. Merci, Kev. Taxer les retraités, personne ne dit ça? Tu te fous de ma gueule, Poupouton, ou quoi? Mais tu sors d'une grotte, ou quoi? Un Poupouton qui sort comme ça, et il dit taxer les retraités, personne ne dit ça, MDR. Déjà, qui dit MDR en 2025? À part un boomer. Mais tu es au courant que dans le projet de Bayrou, présenté à la mi-juillet, il y avait la fin de l'abattement de 10% sur les retraites, donc plus d'impôts pour les retraités, il y avait une année blanche pour les retraites avec une non-revalorisation des retraites, donc hop, les retraités encore. Et qu'il y a un débat grandissant en France sur le fait qu'on a une génération de gens à la retraite, là, la génération du baby-boom, pour faire simple, qui va profiter de retraites plutôt OK, alors que ceux qui arrivent, ceux qui cotisent aujourd'hui, ne vont pas pouvoir bénéficier de retraites aussi généreuses. Tu n'es pas au courant de ce débat? Tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es pas au courant? Mais jamais tu t'informes, en fait. C'est l'autruche, quoi. Ce débat, c'est un des débats les plus tendus en France actuellement. C'est un débat intergénérationnel. C'est un débat qui peut diviser la société française entre jeunes et vieux, entre actifs et retraités. C'est un débat super important. Personne dit ça, mais c'est un des débats les plus essentiels du moment, surtout. Aujourd'hui, le niveau de vie des retraités en France, il est plus élevé que le reste de la population. Et ça c'est très spécifique à la France. Voilà. On a aujourd'hui une génération de retraités, que je n'ai rien contre les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, hein. On a une génération qui est à la retraite aujourd'hui, qui globalement va toucher des retraites beaucoup plus confortables que les générations précédentes, et qui a priori touche des retraites beaucoup plus confortables que les générations qui arrivent. Donc il y a des. Voilà, parce qu'on est dans un moment. Voilà, parce que. Et ça crée des tensions. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très dangereux, c'est-à-dire qu'il faut ce conflit intergénérationnel, il faut l'éviter d'ailleurs. Je vous lis. Il y a Bye Bye qui dit coucou Stéphane, c'est quand que tu reviens à la télé? Je vais lui demander. Je ne sais pas qui est ce Stéphane, mais je vais lui demander. Alors on a vu Le Parisien, on a vu Libération aussi sur l'avertissement. Alors que avec plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues jeudi. La mobilisation réussie des syndicats met la pression sur le nouveau Premier ministre qui poursuit ses consultations. Bon, c'est les infos qu'on a vues dans Le Parisien, quoi. Quelqu'un sait qui est ce Stéphane, par contre, ça m'intéresse. Édito d'Alexandra Schwarzbrod, donc de Libé, qui signe d'excellents éditos, et qui va nous donner son avis sur ce qui se passe. Excédé, c'est le titre de l'édito. Ils ont répondu à l'appel, le monde de la culture, les profs, merci Despotique, merci pour le soutien, merci Kev, merci Winnie Letter, merci El Kebab, pardon, merci Psychodoïde, merci Nicodème. Ils ont répondu à l'appel, le monde de la culture, les profs, les agents de la fonction publique, les boomers, les jeunes, les syndiqués, les pas syndiqués, tout et tous excédés par le peu de cas que le pouvoir politique fait de leur colère depuis l'adoption de la réforme des retraites à l'aide d'un 49-3. À quel moment tu adoptes une réforme aussi importante qu'une réforme des retraites par le 49-3? Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Qui leur a laissé une grosse boule dans la gorge. Excédé surtout par le délabrement continu des services publics malgré les alertes et un profond sentiment d'injustice sociale et fiscale. 8 jours après la mobilisation Bloquons tout, qui a poussé plus de 200 000 personnes dans la rue, l'intersyndicale est donc parvenue à mobiliser hier des centaines de milliers de personnes en France, hein, 500 000 selon le ministère de l'Intérieur, 1 million selon la CGT. Certes, il faisait une température idéale pour descendre dans la rue, c'est vrai qu'il faisait beau. Mais ça n'était pas la raison principale. Officiellement, l'idée était de se mobiliser contre les coupes budgétaires prévues par l'ancien Premier ministre François Bayrou, le nouveau Sébastien Lecornu, très proche d'Emmanuel Macron, n'ayant visiblement pas convaincu les manifestants de sa capacité de rupture. Lecornu, il a dit qu'il allait voir de la rupture. En réalité, les revendications disparates entre drapeaux palestiniens et slogans anti-milliardaires reflétaient une déconnexion croissante entre les élites politiques et les citoyens, deux mondes qui semblent plus parvenir à se parler ni à s'écouter. Il y a Erwan X qui vient d'offrir, mesdames et messieurs, non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, non pas six, non pas sept, non pas huit, non pas neuf. Même pas 10, mais 11 abonnements, puisqu'il en a pris un pour lui, à la commu. Merci à toi. Merci beaucoup. Ils nous donnent des leçons, les politiques, alors que ce sont eux qui sont à l'origine de la situation actuelle, s'indignait une manifestante. Les propos de Bayrou, tendant à faire peser la responsabilité de la crise sur les Français. Bayrou, à un moment, qui s'en est pris aux boomers. C'est génial, puisque sociologiquement parlant, au niveau de son année de naissance, il est aussi un boomer. Donc, quelqu'un nous disait tout à l'heure, mais personne ne critique les retraités en France, même Bayrou, homme politique de centre-droit, qui est pas le gauchiste le plus énervé, même Bayrou, qui sociologiquement est un boomer, dans les dernières heures de son pouvoir à Matignon, à critiquer les boomers. Les boomers, les profiteurs, c'est incroyable. Et après, quelqu'un de le sort de lui, personne ne dit ça en France. Bah, Bayrou. Bayrou. Et c'est incroyable. Les propos de Bayrou tendant à faire peser la responsabilité de la crise sur les Français ne sont manifestement pas passés. La fracture est là, profonde, et c'est là le plus grave. Si l'exécutif s'arc-boute sur sa politique actuelle et refuse d'esquisser le moindre geste pour apaiser la colère, par exemple une mise à contribution des ultra-riches, la mobilisation du jour risque d'être une simple mise en job. J'adore les boomers, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est vrai, dit Shikiro. Dans 20-30 ans, les boomers, ils ne seront plus là. Les boomers, c'est les enfants nés dans le baby-boom, quoi, après la Seconde Guerre mondiale. Ce sera nous. Ah non, David... Non, David, non les... Boomer, c'est un terme sociologique très précis. Ça ne veut pas dire vieux ou retraité. C'est une classe d'âge très précise. Ce sont les enfants nés dans le baby-boom de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'il y a un problème aujourd'hui sur le système de retraite en France. Vous le savez parfaitement. Qu'est-ce qui se passe ? Après la Seconde Guerre mondiale, baby-boom en France. Plein de naissances. Ok. Après, ces gens, ils grandissent. Ils deviennent des salariés. Ok. Et puis après, ils deviennent des retraités. Et ils sont très nombreux. Les baby-boomers et pas les boomers. Mais c'est la même chose. C'est les baby-boomers. Le baby-boomer et baby-boomer, c'est la même chose, sociologiquement. Alors après, par abus de langage, eh ben on donne un autre sens à boomer. Hein. Certains qui disent, bah, les boomers, c'est les vieux. Mais non, non, les boomers, en fait, si on veut parler un peu précisément et comprendre un peu ce qui se passe, c'est cette génération très nombreuse des enfants du baby-boom, les baby-boomers, qui sont devenus salariés, qui, dans un contexte économique donné, qui est un peu celui de 30 glorieuses, avec une croissance économique forte, avec un chômage assez bas, bon, globalement, ça allait plutôt, voilà, même si leurs conditions de vie, si on regarde dans le détail, n'étaient pas si aussi dorées qu'on veut bien l'imaginer et l'inventer aujourd'hui. Et donc, à un moment, ces gens arrivent à la retraite. Ils sont très nombreux, ok ? Sauf que ces baby-boomers-là, ils ont fait moins d'enfants. Ils n'ont pas fait autant d'enfants qu'ils étaient nombreux. Hein. Parce que les Français ont décidé, ils ont bien le droit d'ailleurs, ils font ce qu'ils veulent, de faire moins d'enfants. Le taux de fécondité a baissé en France, et ils ont fait moins d'enfants. Et puis ça continue à baisser, aujourd'hui. Et donc, ils sont arrivés à la retraite massivement, aujourd'hui, voilà. Et il n'y a pas assez de salariés, les enfants de ces gens-là, pour travailler, pour cotiser, pour payer ses retraites, puisqu'on a un système par répartition. Donc il y a un moment, on est dans un moment de crise. On a une génération importante, nombreuse, qui est arrivée à la retraite, et on n'a pas assez de salariés qui sont les enfants de ces gens-là pour cotiser, puisqu'on est dans un système par répartition. Bah voilà, c'est pour ça que ça bug. C'est ça le bug d'aujourd'hui. C'est pour ça que notre système de retraite il est en crise. Voilà, tout simplement. Et donc on pourrait se dire que c'est un moment passager, que bah, à un moment c'est baby-boomers qui sont aujourd'hui bah, nos grands-parents, quoi. Ils vont hélas décéder. Je dis hélas parce que bah, on a toujours envie que nos grands-parents, on les garde le plus longtemps possible. Donc à un moment, ils vont hélas décéder. Et puis donc, ce problème va un peu disparaître. Et en plus, ils vont léguer de l'argent. Donc là, oui, alors moi, c'est mes parents. Ouais. Vous, c'est vos grands-parents. Je parle de vous, vous êtes plus jeune que moi. Et donc, ils vont aussi, comme il y a un patrimoine accumulé qui est assez important, cet argent il va être légué à la génération d'après, donc il va y avoir aussi une redistribution. Et je dis normalement ce problème il est que temporaire, hein, c'est le temps que en fait ben, ces gens ne soient plus avec nous, et puis va arriver à la retraite une génération qui est moins nombreuse, et donc ça va coûter moins cher. Sauf que c'est pas tout à fait vrai, puisque les Français aujourd'hui continuent à faire de moins en moins d'enfants. Donc on ne sera pas dans un delta aussi important et une pyramide des âges aussi bizarre que celle qu'on connaît là, mais ce problème, il se poursuit, puisque comme les Français continuent à faire moins d'enfants, eh bien on aura toujours un problème du nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités, mais il sera un peu moins important qu'aujourd'hui. Voilà. Bird's Eye dit il faut baiser le chat, faut ken. Bon, je sais pas, ça, je sais pas si c'est la solution. Je suis pas sûr parce que je suis pas sûr que un État, un pays doivent dire à ceux qui vivent, aux habitants, comment ils doivent se comporter sur un plan familial. On fait ce qu'on veut. C'est pas à l'État de dire combien d'enfants doivent avoir les Français. Ça, c'est un truc perso. Est-ce que vous voulez un enfant? Est-ce que vous voulez deux enfants? Est-ce que vous voulez trois enfants? Est-ce que vous voulez zéro enfant? Vous savez quoi? Vous faites ce que vous voulez. On n'est pas en Chine, comme dit Marco, la Chine qui est un pays qu'à un moment il fallait faire un enfant et basta, sinon il y avait des sanctions. Et puis au jeu de la Chine qui dit ah non, non en fait faut faire plus parce que nous aussi on a un problème de retraite. Voilà, on n'est pas en Chine et donc eh ben c'est pas un pays, c'est pas un État de dire combien les Français doivent avoir d'enfants. Voilà. En revanche, c'est à l'État de gérer les conséquences de ses choix individuels. Ma philosophie là-dessus, c'est que chacun fait comme il veut. Voilà. Par contre, qu'on laisse tranquille les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants pour plein de raisons. Qu'on les laisse tranquilles. La petite pression amicale, familiale. Ah bah alors quand est-ce que tu. Bah alors tu. Mais alors. Non. Stop, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et qu'on laisse tranquille les gens qui veulent avoir des enfants. De la même manière. Mais comment peut-on avoir des enfants aujourd'hui dans le monde qu'on va léguer? Mais moi c'est inimaginable, mais je ne comprends pas, mais enfin, mais vous êtes fous. Non, mais en fait, laissez les gens tranquilles à un moment. C'est personnel. Donc, que dit Libération finalement? Ben, rien de très différent que de la Croix. Et du Parisien, à savoir que cette journée de mobilisation, c'est une journée de pression aussi contre le cornu. Et on va voir ce qui va se passer maintenant. L'humanité, à mon avis, bah, dit la même chose, si j'en crois ce titre, l'ultimatum. Hein? J'ai envie de lire l'éditorial de Maude Verniolle, que dit-elle? Merci, Place Maggie. C'est pas un cadeau que de faire un enfant, lui donner de lui donner la vie dans un monde comme celui-ci, dit Hendrix. Moi, je pense que le monde a toujours été un enfer. Le monde a toujours été à feu et à sang. On s'en rend plus compte aujourd'hui parce qu'on a plus de médias pour nous le dire, mais je suis pas sûr que c'était plus rose pour les générations précédentes, quoi. Si on prend tout petit peu de recul, quoi. Et pourtant. Nos ancêtres ont fait des enfants, quoi. Faire des enfants, c'est plus simple dans d'autres pays, peut-être. Oui, c'est ce qu'on dit souvent en France, ouais. En France, on sait une chose que les autres ne savent pas, c'est que tout est mieux ailleurs. Et qu'on est le pire pays du monde. Ça, c'est un truc très français, ça. Quel enfer, hein. Quel enfer d'être né en France, hein. Oh, c'est tellement dur. Ah, on aurait été tellement mieux. Où d'ailleurs? Hein? Merci Gérard, merci Pasta Bretzel. Lisons l'édito de l'UMA. Coup de semonce. Un pays sans gouvernement depuis 10 jours et pour la troisième fois en un an, plus d'1 million de personnes dans la rue, donc c'est les chiffres de la CGT. 588 actions dans le pays, niveau de grévistes rarement atteint dans certains secteurs, plus de la moitié des Français qui approuvent cette première journée de mobilisation intersyndicale, le message ne saurait être plus clair et reflète celui des urnes. Le président de la République n'a plus aucune légitimité pour mener sa politique au service exclusif des plus riches. Cette embrouille, avec l'humanité, hein, cette embrouille et manœuvre politicienne n'y pourront rien. Une majorité de citoyens aspire désormais à un changement de cap majeur et ne se résigne pas à la destruction des services publics et des conquis sociaux. Il n'y aura pas de stabilité politique sans justice sociale. Sébastien Lecornu, comme tous les improbables fusibles de Macron, n'hésitera pas à sortir de sa manche droite. Qu'Emmanuel Macron n'hésitera pas à sortir de sa manche droite, subira le même sort que Bayrou s'il s'entête dans sa politique d'austérité injuste, inefficace et sans visée. La pression. Ah, Axel, je suis d'accord avec toi. Les Français n'acceptent plus de passer à la caisse pour payer le gâchis d'argent public de tous les cadeaux fiscaux consentis aux plus riches et aux grandes entreprises sans contrepartie. Le succès de cette journée est aussi un beau pied de nez à tous ceux, le locataire de l'Élysée en tête, qui misaient sur une perte d'influence des syndicats, lesquels ont réussi leur pari de transformer la résignation en mobilisation. Bon, l'humanité est satisfaite de cette journée, vous l'avez compris. Bob Chichi, c'est facile pour toi de parler des difficultés des Français qui travaillent dur et gagnent 1500 euros. T'as raison, Bob Chichi, je pourrais ne pas en parler. C'est ça le sens de ta question? Tu préférais que j'en parle pas? Préfère que j'en parle pas? Préfère que j'aille boire des cocktails? C'est ça l'idée. Je préfère que je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo. Donc, voilà. Oh, c'est marrant parce que les journaux, finalement, sont assez d'accord sur le constat ce matin. Alors, les solutions, elles sont pas évidentes, mais sur le constat, ils sont assez d'accord, quoi. Alors, on va lire maintenant un édito qui va pas tellement dans le sens de ce qu'on a lu, parce que j'essaye aussi de trouver des regards un peu différents. Il y a un monsieur qui s'appelle Éric Le Boucher dans Les Échos, qui dit qu'on se ment, qu'on se raconte, nous les Français, un peu n'importe quoi. Alors, je ne dis pas que c'est ma pensée, mais je dis que c'est intéressant de voir un autre regard. Que dit Éric Le Boucher ? Les historiens réussiront-ils dans les temps futurs à comprendre la conscience nationale de la France de 2025, c'est-à-dire ce qu'on pensait, dans quel état d'esprit on était, quoi. On évoque des millions de manifestants, une humeur révolutionnaire, des colères, des angoisses, un dégagisme qui embraserait le pays, mais ces sentiments cohabitent étrangement avec une satisfaction personnelle déclarée par au moins 2 Français sur 3, nous dit l'INSEE. Quand on demande aux Français comment ils vont personnellement, 2/3 des Français disent bah, « ça va, ça va ». Voilà. Le divorce est complet entre le malheur public, on dit que rien ne va dans notre pays, et le bonheur privé, où globalement, bon an, mal an, il y a 2/3 des Français qui disent qu'ils sont OK. Éric Le Boucher part de ce constat-là. Les Français, quand bien même ça va pour eux, dans un pays si beau, reprennent le discours du « tout va mal », misérabiliste parce qu'il est bombardé quotidiennement par les partis politiques, par les syndicats, par les médias, par les experts, par les influenceurs, par Samuel Etienne, hein, qui fait beaucoup de mal à ce pays. La France se raconte des étranges mensonges à tous les niveaux de toutes les catégories, exactement comme si avant la guerre, comme l'a si bien décrit Marc Bloch dans « L'étrange défaite ». Le plus important des mensonges est celui de l'extrême gauche, estime Éric Le Boucher, parce que sa critique radicale est parvenue à conquérir une très grande partie de l'espace idéologique national. Sans doute 99% des Français ne tiennent pas à ce qu'on se lance dans une expérience bolivarienne comme le propose le leader Mélenchon, le Venezuela comme modèle, non merci, le communisme est un truc raté du XXe siècle, dit Éric Boucher. Le Boucher. Sans doute 95% des Français craignent son ralliement nauséabond aux islamistes. Sans doute 85% redoutent-ils sa créolisation des sociétés. Hormis Mélenchon, personne, presque personne, n'en veut vraiment. Bon, vous avez compris que Éric Le Boucher n'est pas trop mélenchoniste. Pourtant, il a gagné la bataille des idées, constate-t-il. Son discours est repris sur tous les plateaux, dans les études universitaires, les médias, le cinéma, sa manœuvre à payer, cogné sur les progressistes, les démocrates sociaux libéraux à l'européenne, Macron en premier, qui sont incapables, dit l'ancien trotskiste, de corriger les défauts du capital ultra-libéral et dur. Éric Le Boucher dit « c'est faux, les inégalités sont corrigées en France, les aides sociales sont innombrables ». On est avec les échos, ouais. Mais plutôt sur, vous l'avez compris, si on veut, avec cet édito, placer Éric Le Boucher sur l'échiquier politique français, on est plutôt sur une lecture macroniste de la situation. Le progressisme est lent, toujours insuffisant, mais sérieux, réaliste et démocratique. Il ne réussit pas assez bien, mais il est en échec. Pardon, mais il n'est pas en échec. Il demande des efforts, de la sueur à une époque individualiste, désagrégée par les réseaux sociaux. L'utopie regagne des likes sous une forme neuve, le n'importe quoi devient crédible, les Français adhèrent à cette partie-là, la critique, ils ont peur d'un monde devenu dur et rêve de magie. Le mensonge des autres partis est plus cynique, eux ne croient pas vraiment à ce qu'ils proposent, on range ici le RN et le PS. Éric Le Boucher, il s'en prend à LFI, au PS et au RN. Le parti de Marine Le Pen a des propositions économiques démagogiques, retraite à 60 ans, relèvement des salaires, gagé sur des recettes inventées, comme la fraude des immigrés. Pas une ligne n'est applicable du programme du RN, Jordan Bardella semble avoir compris. L'immigration pose des problèmes réels et douloureux, mais les solutions du RN sont en grande partie imaginaires. Giorgia Meloni, en Italie, a démontré l'ineptie des programmes d'extrême droite. Mais étrange mensonge, le RN est en train de gagner une respectabilité dans l'opinion, en abandonnant ses sottises. Cet automne, il trouve un attrait auprès d'une partie des classes patronales, en étant un parti qui ne fera rien ce qu'il dit. Dans le mensonge, le Rikiki PS est le pire, estime Le Boucher. Il a adopté une radicalité à vendre. Il annonce un contre-budget qui tuerait l'innovation et ferait fuir les grandes entreprises. C'est la taxe Zuckman. Mais tout est amendable au prix d'un symbolisme. J'ai fait, moi, plier le progressiste Macron et d'une réalité électorale des sièges aux municipales et aux législatives. Les Français ne sont pas les derniers à se mentir. Paysans, la tête près du bonnet, ils savent en leur fort intérieur que la dette est trop élevée et que les défis géopolitiques, climatiques et technologiques imposent de grands changements. Ils savent aussi que le dégagisme, le « il faut essayer ce qu'on n'a jamais essayé », qui est un des arguments des électeurs du RN, est périlleux. Mais le progressisme est démonétisé, la conscience nationale est apeurée par l'avenir et bloquée dans l'impuissance, enragée par le bombardement permanent du « faux, tout va mal », et terrorisée par l'absence vraie des perspectives politiques crédibles, les Français sont réduits à crier. J'essaie de résumer le propos de Éric Le Boucher. Lui, il dit tout va pas si mal, même si les Français aiment bien dire que tout va mal. Éric Le Boucher, il dit, aujourd'hui, il y a une traîne qui est tapée contre ce que lui appelle le progressisme, et ce qui ressemble quand même beaucoup à la politique du président Macron, en disant, arrêtez de dire qu'il n'y a pas de redistribution, la France est un des pays qui redistribue le plus au monde. Il dit ça. Il dit aussi, les oppositions mentent. Le programme de LFI serait une catastrophe pour la France. Le programme du PS actuellement aussi. Voilà. Même s'il ne l'appliquera pas forcément d'ailleurs s'il arrivait au pouvoir. Et le RN, c'est encore pire. Son programme est inapplicable. Et une grande partie de ceux qui aujourd'hui ont envie de voter pour eux le savent. C'est juste qu'il y a un truc de dégagisme. Ça, c'est l'analyse d'Éric Le Boucher. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez, vous. Plug banal, joli pseudo, dit « Bah, c'est sûr que quand t'es de droite et que t'as un bon revenu, la politique actuelle te convient très très bien. Hein, ce monsieur n'est pas biaisé. » Au moins, il tape sur tout le monde. Un peu moins sur Macron, Daxter. J'ai mis l'audio de ton stream pour endormir mon neveu de 6 mois et ça marche bien. Merci fan Nevada Box, je vais faire attention à pas crier quand même. Et à partir de lundi, tout ça c'est en podcast sur toutes les plateformes, donc tu pourras le mettre aussi souvent que tu veux. Bonjour, pourquoi les journalistes ne parlent pas plus du problème palestinien? Alors Al, tu es sur TikTok, tu peux pas voir, mais il y a un sommaire qui est affiché sur Twitch, et littéralement, le prochain sujet que nous évoquons dans cette revue de presse, c'est justement la Palestine. Est-ce que tu peux dire bonjour à ma sœur Rita? Oui, Taline, je peux dire bonjour à ta sœur Rita. Rita, manifestement, tu as ta sœur Taline qui est dans le chat et qui pense à toi. Et ça, je trouve ça trop mignon. Ok. À l'instant, quelqu'un me disait dans le chat, mais pourquoi les médias parlent pas de la Palestine? Bon, ici, on en parle tous les jours, quasiment. Donc, hop, on va dans le sommaire. Et on passe à cette question, la reconnaissance de la Palestine, de l'État de Palestine, par un pays comme la France, qu'est-ce que ça changerait? C'est une question qu'on me pose souvent, parce que moi je parle souvent de ce truc qui est en train d'arriver là. Dans les prochains jours, plusieurs pays vont reconnaître l'État de Palestine, comme la France, pour la première fois. Et certains me disent, mais ça va changer quoi? Ben, il y a un monsieur qui est un ancien diplomate, qui s'appelle Michel Duclos, qui est essayiste. Il dit dans Le Monde, essaie de répondre à cette question, le journal Le Monde. Lisons. L'ancien diplomate s'interroge sur les conséquences de cette déclaration de New York, adoptée le 12 septembre par l'AG des Nations Unies, qui plaide pour une solution à deux États, Israël et la Palestine, au Proche-Orient. À mon humble avis, la solution des deux États, c'est la seule solution pour qu'un jour la paix revienne dans la région. Le 22 septembre à New York, donc c'est dans quelques jours, hein, dans le cadre d'une réunion sur la Palestine au niveau des chefs d'État et de gouvernement, la France, et quelques autres pays, sans doute le Royaume-Uni, le Canada, merci Quasimodo, la Belgique, l'Australie notamment, devraient reconnaître un État palestinien. Alors je vous dis souvent, alors c'est bien beau, mais la plupart des États du globe ont déjà reconnu la Palestine, sauf que ce qui nous manquait, c'est notamment les pays du G7, les pays les plus riches, bah c'est en train d'arriver. À l'exception notable des États-Unis. Hein. Ah, évidemment. Avant eux, rappelle d'ailleurs cet ancien diplomate, 148 autres États l'avait déjà fait. Faut-il y voir un geste purement symbolique, puisqu'il ne suffit pas de reconnaître un État pour qu'il existe réellement? C'est pas parce que la France va reconnaître dans 3 jours l'État palestinien que l'État palestinien va exister. Vous n'êtes pas débile. Si tel est le cas, on comprend mal. Alors, donc, le diplomate dit, alors, est-ce que c'est un truc qui sert à rien, quoi? Est-ce que c'est un truc qui sert à rien? De reconnaître l'État palestinien, puisque reconnaître un État palestinien, ça n'est pas le créer. Et le diplomate répond, bah, si c'est le cas, si ça sert à rien, on comprend mal la fureur. Après, moi, je trouve que c'est dommage d'utiliser le mot fureur quand tu parles d'Israël. Je pense que la personne ne s'est pas relue à haute voix. Enfin, c'est pas grave. Si tel est le cas, on comprend mal la fureur que déclenche ce développement de la part du gouvernement israélien, d'une partie de l'administration américaine, dont l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Je pense que la personne ne s'est pas relue parce que c'est malheureux. À l'oral, c'est malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les gens qui disent ça sert à rien, la reconnaissance de l'État de Palestine. Bah alors pourquoi ça provoque une colère folle de l'État israélien? Pourquoi le fait que la France dise qu'elle veut reconnaître l'État palestinien, pourquoi ça provoque une colère folle de Netanyahou? Pourquoi ça provoque la colère de la diplomatie américaine? Pourquoi ça provoque la colère de Trump? Si vraiment ça ne change rien, c'est donc que c'est quand même un truc qui peut faire quelque chose. Symbolique, politique, mais quelque chose. Alors la question, c'est quelque chose. On sait que si la conférence se déroule comme prévu, j'espère que ça va aller à son terme, parce que le président Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de cet AG de l'ONU, mais ça n'est pas fait encore. On sait que si la conférence se déroule comme prévu, il s'agira de l'aboutissement d'une initiative prise au début de l'année par l'Arabie Saoudite et la France. Corrigeons aussitôt ce que nous venons d'écrire, il faut précisément éviter de considérer cette initiative franco-saoudienne comme se résumant à la reconnaissance de l'État de Palestine. Ça n'est pas que ça. Et la conférence de New York comme son aboutissement. Il s'agit. Tiens, c'est Moulbit vient d'écrire dans le chat, il faut bien commencer quelque part de toute façon, c'est exactement ça. Il s'agit plutôt d'un processus, d'un début de quelque chose, dans lequel la reconnaissance d'un État sert de levier pour atteindre d'autres objectifs. Une démarche pour contribuer à réunir les conditions d'un règlement pacifique. C'est un petit quelque chose dans un processus pour obtenir plus. L'initiative franco-saoudienne a d'ores et déjà permis d'obtenir même certains résultats, estime-t-il, ce monsieur. L'autorité palestinienne a promis de procéder à des élections générales. Pour la première fois depuis 20 ans. Dans un délai d'un an. Parce qu'un État, il faut qu'il soit dirigé. Par qui, hein. Elle a également arrêté, l'autorité palestinienne, les versements mensuels aux familles de terroristes et engagé deux premières réformes. Ah bah oui, Mimilia, t'as raison. Mimilia dit, tu rappelais cependant sans cesse récemment, et notamment hier, que cela est bien beau mais inutile s'il n'y a plus de Palestiniens pour peupler la Palestine. Ah oui. Oui, si tu laisses le gouvernement Netanyahou faire ce qu'il est en train de faire en ce moment, les colonies illégales en Cisjordanie, les frappes contre les civils à Gaza, notamment contre Gaza City, contre la capitale, et que tu tues ce peuple à petit feu et que tu le pousses à s'exiler, ça servira à rien de créer un État palestinien, il n'y aura plus de Palestiniens dedans. Oui, bien sûr. Cela va sans dire. Une réunion ministérielle préparatoire tenue le 29 juillet a aussi conduit à un changement de position notable des principaux pays arabes, parmi lesquels l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Voilà. Le 12 septembre, l'AG des Nations Unies a adopté la déclaration dite de New York qui prévoit explicitement que le Hamas quitte la bande de Gaza et rende ses armes à l'autorité palestinienne. Lorsque Netanyahou et d'autres prétendent que la reconnaissance d'un État palestinien équivaudrait à récompenser le Hamas, c'est ce qu'a dit en France Marine Le Pen, par exemple, qui est contre la reconnaissance de la Palestine par la France en disant que c'est un cadeau au Hamas. Et ce diplomate dit, ben non, c'est l'inverse. En promettant cela, on a obtenu des pays arabes et l'autorité palestinienne, au contraire, que le Hamas quitte la bande de Gaza. Après, il faut le faire. La mise au ban du Hamas par les Arabes est justement une retombée de cette initiative franco-saoudienne. Quant à la critique accusant les promoteurs de cette initiative d'antisémitisme, la même accusation infamante avait été adressée à la France par les néoconservateurs américains lorsque Paris s'était opposé en 2003 à l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Rappelons-le, pour la création d'un État palestinien et estimer que ce que fait le gouvernement Netanyahou aujourd'hui aux Palestiniens et monstrueux, ne fait pas de toi un antisémite. Tu peux, comme moi, dire haut et fort que Israël a le droit à la sécurité et les Israéliens le droit de vivre en paix et en sécurité dans leur pays et penser que les Palestiniens ont ce même droit. Tu peux évidemment estimer crucial que les Palestiniens puissent vivre en paix dans un État sans faire de toi un antisémite. Mais c'est un peu ce que certains disent du côté de Washington, par exemple. Et aussi du côté de Tel Aviv. Cependant, ce diplomate écrit aussi que la roue meurtrière du conflit continue de tourner. Alors c'est bien beau les effets de manche diplomatiques, les reconnaissances, mais pendant ce temps, les Palestiniens continuent de mourir. Israël a frappé Doha, la direction politique du Hamas, sapant un peu plus tout espoir de paix. Au moment où il y avait des négociations entre les deux parties et que des responsables du Hamas étaient réunis à Doha pour se pencher sur les conditions d'un cessez-le-feu, Israël a tapé à Doha. D'où les mots du diplomate. Gaza brûle, ça vous le savez. Cela rend d'autant plus important qu'un grand nombre d'États rejoignent l'initiative franco-saoudienne afin de consolider les premiers acquis de celle-ci, mais aussi, enfin, d'aller plus loin. Une pression continue sera nécessaire pour que l'autorité palestinienne se réforme vraiment. Il y va aussi de soi que les élections en Palestine ne seront pas possibles tant que le conflit perdure. Leur tenue suppose un cessez-le-feu, probablement dans le cadre de négociations incluant la libération des otages israéliens, honteusement détenus et odieusement maltraités par le Hamas, parce que tu peux te soucier du sort des Palestiniens tout en estimant que les attentats du Hamas ont été monstrueux, ce qui est une évidence, et que le traitement du Hamas des otages israéliens est monstrueux, ce qui est une évidence. D'autres mesures seraient nécessaires, telles que la libération de Marwan Barghouti, qui est un prisonnier politique palestinien depuis très longtemps en Israël, des geôles israéliennes. Il est vraisemblable que sa participation à des élections pan-palestiniennes constitue une condition clé pour qu'un nouveau leader palestinien, qui pourrait être Marwan Barghouti, plus capable de décisions courageuses, plus capable, apparaisse. Il faut l'admettre, comme en 2003 au moment de l'opposition française à l'invasion de l'Irak, la diplomatie française, en conjonction cette fois avec l'Arabie Saoudite, a su cristalliser le quasi-consensus de la communauté internationale. Hein, souvent on dit qu'on est des gros losers en France. Là, pour le coup, même si la situation des Palestiniens à Gaza notamment est terrible, une des rares lueurs d'espoir à venir dans les prochains jours, insuffisante mais lueur, c'est quand même cette initiative franco-saoudienne. Pourtant, rien de concret ne sera possible si Israël ne change pas sa politique avec Netanyahou à sa tête ou à la suite d'élections générales avec un nouveau leadership. Puisqu'en 2026, je vous le rappelle, oui, il y a un bébé qui crie. J'ai un jeune couple de voisins adorables qui ont un petit bébé tout chou. Et là, on l'entend parce que je pense qu'il est sur le palier. Et il a une trop jolie voix. Voilà, on l'entend très très peu. Donc, je me suis présenté aux voisins d'ailleurs pour leur dire si vous entendez un fou hurler la nuit sur le matchmaking, enfin des trucs comme ça, sur le venez taper à la porte, quoi, c'est moi. Il me dit non, on n'entend rien, n'hésitez pas quand même, parce que tu réveilles le bébé après qu'il réveille les enfants, tout ça, les parents, mais ils ont un petit chouchou que j'ai pas croisé encore, voilà, donc je l'entends de temps en temps. Là, c'est parce qu'il était sur le palier, ce qui est étonnant parce que Il a, à mon avis, il y a quelques semaines, et de toute façon, il va déjà faire les cours tout seul, puisque là, il était sur le palier. Donc, je disais, je vous rappelle qu'en 2026, il y a des élections législatives générales en Israël. Alors, il y a moi j'appelle ça le problème, hein, le problème Netanyahou. Tant que ce monsieur et ses alliés d'extrême droite sont au pouvoir en Israël, il n'y a aucune solution qui peut être trouvée. Et puis, il y a un autre souci, c'est l'administration Trump. L'autre réalité est que seule l'administration Trump est en mesure d'arrêter le bras de Netanyahou. L'allié, le grand allié, le grand allié de Netanyahou, c'est Trump. Bah, historiquement, les États-Unis et Trump. Donald Trump a montré dans le cas de la Syrie qu'il était capable de surmonter les préjugés de sa propre administration. Peut-il faire de même avec la Palestine? Est-ce qu'à un moment Trump peut changer de camp? Est-ce qu'à un moment Trump peut faire pression sur Netanyahou en estimant que sa politique, elle est désastreuse? C'est la question que pose ce diplomate. Le président américain a paru jusqu'ici peu sensible au sort des Palestiniens, même s'il n'aime pas de manière générale le recours à la force, comment le convaincre d'ouvrir les yeux? Alors ça peut sembler un peu stupide comme interrogation, mais ceux qui connaissent un petit peu ce jeu diplomatique savent que le seul pays qui est réellement en capacité d'influer sur Israël, c'est les États-Unis. Outre ces projets mirifiques de Riviera à Gaza, parce que Trump c'est quand même quelqu'un qui a dit « moi j'ai la solution, c'est qu'on crée une Côte d'Azur hein, » à Gaza, on vire tous les Palestiniens, on les met dans d'autres pays, et puis on va créer une jolie région qui va être formidable pour tous les touristes du monde entier. Donc ça, c'était la proposition de Trump. Waouh ! Outre ses projets mirifiques de Riviera à Gaza, Trump paraît attaché à poursuivre son initiative de normalisation des relations diplomatiques entre les États arabes et Israël, ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Il est évident que l'Arabie Saoudite et d'autres ne pourront franchir le pas d'une reconnaissance d'Israël si un minimum n'est pas fait en direction de la Palestine. En conséquence, au lieu de combattre l'initiative franco-saoudienne, l'administration américaine devrait considérer qu'il y a en réalité convergence entre cette initiative franco-saoudienne et tout ce qui favorise la paix dans la région, notamment ces accords d'Abraham. Ça, c'est hyper intéressant. Quelle est l'alternative à un tel effort? Attends, je m'arrête un instant là-dessus. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça paraît totalement illusoire que Trump change d'avis. Mais Trump, d'abord, c'est un... C'est quelqu'un qui n'a pas un corpus idéologique très construit. C'est un opportuniste, disent ses adversaires. C'est quelqu'un d'intelligent, disent ses soutiens. C'est quelqu'un qui est capable de changer de position assez vite. Voilà. En fonction de ses intérêts, à lui, tout va bien pour Trump en ce moment, qui n'a jamais été aussi riche et qui profite de sa position de président américain pour s'enrichir comme jamais, notamment avec les cryptos. Bon, ça, bon. Donc, ce qui est dans son intérêt à lui et ce qui est dans l'intérêt aussi des États-Unis, confère la guerre commerciale qu'il a lancée il y a pas longtemps. Si à un moment, il estime, pour des raisons X ou Y, qu'il est dans l'intérêt des États-Unis que la paix revienne dans la région et qu'il faut soutenir les Palestiniens et mettre la pression sur le gouvernement Netanyahou, c'est possible. Et puis, notamment l'histoire des accords d'Abraham, en fait. Trump, il est pour qu'Israël et les États arabes de la région fassent la paix. Pourquoi? Parce que c'est bon pour le business, c'est bon pour l'économie. Mais sauf qu'en fait, pour que d'autres pays arabes se rallient aux accords d'Abraham, il faut sans doute que Netanyahou dégage, quoi. Quelle alternative à un tel effort conjugué vers un règlement? Alors, si on ne fait pas ça, quelle alternative? Qu'est-ce qui peut se passer si on laisse Netanyahou faire? C'est la question que pose le diplomate. Que le gouvernement israélien s'enferme dans une politique d'annihilation de Gaza et de domination par la force de son voisinage, notamment la Cisjordanie, le Liban, une partie de la Syrie, voire le Golfe. Peut-on sérieusement croire qu'une telle stratégie assurerait vraiment la sécurité d'Israël? Redoutons au contraire qu'elle ne dresse contre ce pays qui a le droit, Israël, de vivre en paix, je le rappelle. Hein. Redoutons au contraire qu'elle ne dresse contre lui les États de la région, ternisse encore plus l'image de l'État hébreu, divise encore davantage l'opinion israélienne, qui est divisée, et finalement stimule le terrorisme que le gouvernement israélien prétend combattre. Il y a des Israéliens aujourd'hui, qui sont minoritaires, mais il y a des Israéliens aujourd'hui qui disent que le pire ennemi d'Israël, c'est Netanyahou. Et que celui qui met en danger l'État hébreu aujourd'hui, c'est Netanyahou. Je reviens à Trump, parce que c'est vrai que ça paraît totalement fou d'imaginer un revirement du président américain sur cette question-là. Lui, son rêve, c'est quoi, aujourd'hui? Bon, il est riche à millions, et le mec a été président des États-Unis deux fois, enfin trois fois dans sa tête, parce qu'il dit que la deuxième, on lui l'a volée. De quoi il rêve? Il rêve de quoi? Vous le savez si vous suivez l'actu. Du prix Nobel de la paix. Boulet tout. Du prix Nobel de la paix. Le mec, il a tout. Il a été président deux fois de la plus grande puissance du monde. Il est milliardaire, riche, riche à foison, et il continue de s'enrichir comme un ouf. Voilà. Et ils se disent qu'il pourrait être vraiment chic. Ce serait un petit prix Nobel de la paix. Bah, en plus. Rêvons que le mec est un ego tellement dingue qui veuille obtenir le prix Nobel de la paix et que pour ça ils se disent je vais ramener la paix au Proche-Orient. C'est mon côté un petit peu optimiste. Oui, le petit Camus, je lis les coms sur TikTok et Camus, j'aime beaucoup. MDR, pardon, prix Nobel de la paix. Moi, je suis désolé, hein. S'il faut donner le prix Nobel à Trump pour que la paix revienne dans la région, mais donnons-lui quoi. Mais donnons-lui 10 fois. Il aura son petit cadre dans son bureau, il sera content, on sera content. Donnons-lui. On lui donne, il fera rien, il va se torcher avec. Ah, donnons-lui quand il l'aura fait, pas avant. Quand il l'aura fait. Ah ben non, on n'est pas débile non plus. Non, non, donnons-lui quand il l'aura fait. Pas avant. Ah ben non. Bon, on verra. Hop, on change de sujet. On change de sujet et on va sur. Ah bah tiens, Trump et les Late Show. Bon, on va être rapide parce qu'on a déjà parlé hier. Hein. C'est comment Trump est pas super pour la liberté d'expression en vrai. Voilà, puis il aime bien taper contre les Late Show et essayer d'obtenir la tête des humoristes et présentateurs. Et il y arrive plutôt bien d'ailleurs. On en a parlé hier avec un article du Monde. Il y a Domi qui spamme sa question, je vais répondre parce que sinon il va pas pouvoir dormir. Domi, est-ce que vous êtes anti-Israël, me demande Domi. Non, non. Bien sûr que non. Moi, je suis de ceux qui affirment qu'Israël a le droit de vivre en paix, en sécurité, et que les juifs du monde entier, s'ils le souhaitent, pour ceux qui le souhaitent, ont le droit de vivre en paix après des décennies, centaines d'années de violence, de pogroms, avec parmi les pires, la Shoah. Voilà. Évidemment que les juifs qui le souhaitent, parce que tous les juifs ne veulent pas vivre en Israël, ont le droit de pouvoir vivre en sécurité et en paix dans les frontières d'un État qui serait le leur, quoi. Voilà. Donc ça n'est pas être anti-Israël de dire ça. Mais en revanche, ce même droit, il faut le reconnaître aux Palestiniens. C'est hyper simple. Ouais. De la même manière que je ne confonds pas Israël et son gouvernement, hein, vous n'êtes pas tous macronistes parce que le président de la France, c'est Macron. Tous les Israéliens ne sont pas des soutiens de Netanyahou. De la même manière que je ne confonds pas un peuple et son gouvernement, je ne confonds pas non plus les Palestiniens avec le Hamas. Parce que quelqu'un m'a dit, bah alors du coup, tu reconnais qu'Israël a le droit de se défendre. Mais le Hamas, ce n'est pas les Palestiniens. Le Hamas, ce sont des terroristes qui s'emparent d'un combat juste, la défense des Palestiniens, avec des méthodes de terroristes. Ils sont allés tuer des femmes, des enfants, des civils, monstrueusement, il y a 2 ans. Mais défendre le droit des Palestiniens à vivre en paix dans un État, c'est pas valider et soutenir le Hamas. Alors le Hamas qui fait bien les affaires de Netanyahou d'ailleurs. Les extrêmes se nourrissent les uns les autres. C'est grâce au Hamas que Netanyahou peut rester aussi longtemps au pouvoir. Allez, parlons de Trump. Alors qu'est-ce qui se passe avec, comment il s'appelle, Jimmy Kimmel. Bon, c'est un présentateur, un humoriste hyper connu aux États-Unis. Et là, il a été mis à pied. Bon, je pense qu'il y a peu de chances qu'il revienne à l'antenne. Et Libé qui nous explique ce matin qu'aux États-Unis, Trump veut la tête des late shows, ces émissions un peu d'humeur qui parlent d'actualité notamment. Sous pression directe de la Maison-Blanche, donc la chaîne ABC a suspendu son humoriste vedette, Jimmy Kimmel. Une nouvelle attaque contre les voix irrévérencieuses de la télévision américaine. Trump aime pas trop les voix irrévérencieuses. Une grande nouvelle pour l'Amérique. Oui, il paraît que Jimmy Fallon est menacé aussi, dit Oberyx, je l'entends. Ouais. Une grande nouvelle pour l'Amérique pavoisait Trump mercredi soir. Alors, ce qui me choque, moi, un, c'est qu'un président puisse explicitement souhaiter le départ de certaines personnes de la télévision, hein, d'un présentateur, animateur, humoriste. À quel moment un président se permet de dire, lui, il a le droit de faire la télé, lui, il n'a pas le droit, lui, il a le droit de dire ça, lui, il n'a pas le droit. À quel moment dans une démocratie? Jamais. Et non seulement il le souhaite, mais en plus, quand ça arrive, il s'en félicite. C'est quoi cette démocratie? Donc, une grande nouvelle pour l'Amérique, a dit Trump, qui a interrompu sa visite officielle au Royaume-Uni pour faire ce petit communiqué et saluer le pire affront à la liberté d'expression de son règne, l'éviction par la direction de la chaîne ABC, sur recommandation du gouvernement, du comique nocturne d'un late-night show ciblé depuis 2 jours par le peuple MAGA, Make America Great Again, pour ses commentaires sur l'assassinat de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk la semaine dernière. Jimmy Kimmel, donc, puisque c'est lui dont on parle, humoriste star d'une chaîne détenue par l'Empire Disney, s'était insurgé contre l'exploitation politique du meurtre de Charlie Kirk par les républicains qui ont incriminé les extrémistes de gauche alors que l'enquête est en cours. Et dans son émission de lundi soir, Jimmy Kimmel a estimé que le suspect du meurtre, Tyler Robinson, avait été élevé dans une famille de mormons de l'Utah, et qu'il émanait de la mouvance pro-Trump. D'ailleurs, cette analyse, elle est aussi, elle semble aussi erronée et précipitée que l'autre. L'enquête est en cours. Dire que Tyler Robinson, c'est un extrémiste de gauche, comme disent certains aux États-Unis, alors qu'on n'a pas de certitude absolue là-dessus, ou que c'est un pro-Trump, parce que ses parents étaient républicains, bon, dans les deux cas, ce sont des raccourcis, quoi. Aucun de ces propos ne pouvait être interprété comme une insulte envers la victime, ça c'est vrai, littéralement canonisée depuis sa mort comme une lumière de la sainte, sacro-sainte liberté d'expression américaine. Et Kimmel s'apprêtait non à présenter des excuses, mais à clarifier ses propos mercredi, quand est tombée la décision de se suspendre indéfiniment. Comme ça, il ne pourra pas s'expliquer, quoi. Ah, je veux bien l'identificateur, ouais, j'aime bien l'extrait, ouais, en vrai. Le petit Camus nous dit Trump ne connaît pas la séparation des pouvoirs si chère à Montesquieu, pourtant stricte aux États-Unis. Merci, Defecator. Je vais essayer de vous mettre la vidéo. With the MAGA gang desperately trying to characterize. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from. On y va, c'est ça, cette vidéo-là, ok? Let's go. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this. My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir?
I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beauty.
Yes. Okay. He's at the fourth stage of grief, construction. Demolition, construction. This is not how an adult grieves the murder of someone he called a friend. This is how a four-year-old mourns a goldfish, okay? We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving.
Alors quelqu'un disait, il a pas tout à fait dit que... Dans le chat, quelqu'un disait, ah, il a pas tout à fait dit, Jimmy Kimmel, que le meurtrier émanait des rangs MAGA. Il vient littéralement de le dire, hein, sous nos yeux, quoi. Là, il le dit. Hein. Il le dit. Donc après, c'est la liberté d'expression. Hein. C'est un humoriste. One of them. Ouais. Voilà, il l'a un peu dit quand même, hein, littéralement. Mot pour mot. Mais après, bon. Alors, on peut d'ailleurs ne pas être d'accord avec ça. C'est ce que je disais à l'instant. L'enquête est en cours. À quel moment il peut exprimer cette idée que le meurtrier était un one of them, un MAGA, un Make America Great Again. C'est le camp Trump, Ojiman. Ça me semble précipité. Mais est-ce que cette analyse mérite, comme demande Romain, hein, donc le gars a été viré pour ce passage-là, oui. Est-ce que cette analyse, qui peut être erronée, mérite une éviction? Décision prise par la direction de la chaîne, sous pression de l'administration américaine. Hein, c'est la question qui est posée, en fait, c'est ça. Sachant que il y a eu des précédents déjà. Samuel, je comprends plus rien, le meurtrier est MAGA ou pas du coup? Bah, on sait pas, hein, en l'état actuel de l'enquête. Et comme le dit Cocaïne, joli pseudo, c'est pas lui mener l'enquête, voilà. On ne le sait pas. Voilà. En fait, pour t'expliquer, lui vient d'une famille, le jeune meurtrier, parce que c'est un homme plutôt jeune, vient d'une famille républicaine, Déjà, républicaine et MAGA, c'est pas tout à fait la même chose. Peu importe. Républicaine. Après, dans ses connaissances, ses relations, les témoignages de certains de ses proches, certaines des inscriptions qu'il avait écrites sur les balles, il y a des choses qui font penser plutôt à l'extrême gauche américaine. Voilà. Et maintenant, c'est aux enquêteurs de faire leur travail. Mais c'est ni à Trump de le dire, qui n'est pas juge, et à mon avis, sans doute, ni un humoriste. Mais de la même manière que Trump n'a pas été suspendu de ses fonctions de président américain pour avoir dit que le meurtrier était d'extrême gauche, je ne crois pas que Trump ait été suspendu. Pourquoi cet humoriste le serait ? Question. Continuons. Puis dépêchons-nous parce que j'ai un. Dans 5 minutes, je vous laisse parce que j'ai un Teams. Donc, on est revenu grâce à Defecator sur les propos précis de Kimmel. Après avoir fait campagne contre la censure et la cancel culture woke, Trump, déjà en guerre ouverte contre les médias, dirigeait depuis 8 mois un ouragan en majuscule outré contre les animateurs de ses programmes de fin de soirée. Il s'exprime sans arrêt sur son réseau social, Trump, contre ces gens. Irréductible foyer de dérision face aux outrances de la Maison-Blanche. Kimmel, qui l'année dernière animait la soirée des Oscars, s'était déjà fait la joie de lire un message fielleux et déjanté du président expédié pendant la cérémonie. Cette fois, son détracteur peut crier victoire. Alors, c'est pas tout. Alors que Trump a justifié l'affaire par le manque de talent de son ennemi Jimmy Kimmel, son poste sur son réseau Truth Social cible maintenant d'autres animateurs nocturnes. Cette fois de la chaîne NBC. Do It NBC recommande le président des États-Unis plus conscient que jamais de son influence sur les médias américains. À quel moment un président, dans une démocratie, s'autorise à dire qui doit pouvoir faire de la télé et qui n'a pas le droit de le faire? C'est la question qui est posée par cet article. Alors, il y a un précédent. 2 mois plus tôt, la chaîne CBS avait annoncé qu'elle ne renouvrerait pas le contrat de Stephen Colbert, animateur star du Late Show le plus anti-Trump, et allait arrêter l'émission en 2026. Alors, officiellement pour des raisons financières, la décision fleurait évidemment le calcul politique, puisque le groupe Paramount, qui possède CBS, négociait son rachat par Skydance Media, deal sujet à des recours antitrust pour monopole et qui nécessitait l'approbation de qui? Du gouvernement Trump. Trump semble avoir déjà eu gain de cause dans ses combats contre les médias et la presse qui le suit et la Maison Blanche. Ses attaques contre le Washington Post ont déjà engendré des consignes de modération de son propriétaire Jeff Bezos. Par ailleurs, patron d'Amazon. En procès pour dénigrement contre le New York Times et même le Wall Street Journal, propriété de Robert Murdoch, fondateur de la Fox News, le président voit déjà Comcast, le groupe possédant NBC, appeler sa rédaction à mieux travailler au dialogue civil. Pression, 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 pression. La consigne suit, par exemple, alors ça on en a moins parlé parce que la personne était moins connue, mais le licenciement de Matthew Dowd, journaliste de la chaîne d'info de gauche du groupe MSNBC, pour avoir dit que les propos affreux que Charlie Kirk avait tenu de son vivant avait contribué sans doute à son assassinat. NBC produit aujourd'hui le célèbre show Saturday Night Live, dont le succès repose aussi sur des moqueries délirantes contre Trump. Ces comiques, dernière ligne de défense irrévérencieuse contre le régime, attendent eux aussi leur tour. Henri, c'est quoi le but du live? De lire des articles sur la presse, dans la presse, sur l'actualité tous les matins. Voilà. Là, ce matin, on a parlé des grèves d'hier, des manifestations, de la question de la reconnaissance de l'État de Palestine, là de Trump et son rapport un peu compliqué aux humoristes. Et on va parler en 2 minutes chrono des lunettes de Meta, puisqu'on arrive à la fin de cette revue de presse. Allez, bon, on finit là-dessus, très vite. Alors très très vite, je suis désolé parce que là, j'ai une réunion dans un instant. Et après, la revue de presse revient lundi. Mais il y aura du gaming, ce week-end bien sûr, ce soir, et le Samplay dimanche. Je ne vous dirai pas qui est invité, je ne vous dirai pas que c'est Maxime Bialgi qui est notre invité. Mais tout ça, c'est pas sur TikTok, c'est que sur Twitch. Alors, c'est quoi cette histoire? Moi, je voudrais qu'on m'explique. C'est quoi cette histoire de lunettes? Rediff gratuite, Ilan, sur Twitch, sur YouTube. C'est quoi cette histoire de lunettes? Alors là, il faut m'expliquer. Meta fait un pas vers le futur avec ses lunettes. Les Ray-Ban Display illustrent l'ambition du groupe, concevoir les appareils qui remplaceront le smartphone. C'est quoi cette histoire? Les lunettes du turfu, me dit-on. Bon. Meta fait un pas supplémentaire dans la réalité augmentée. Dans le futur, le géant américain a dévoilé mercredi soir les podcasts à partir de lundi. C'est Ray-Ban Display, première lunette connectée qui combine intelligence artificielle et écran intégré. Mark Zuckerberg a lui-même joué les VRP en présentant le modèle à l'occasion de sa grande conférence annuelle. Ce sont nos lunettes les plus impressionnantes à ce jour, mettant en avant des innovations. D'innovation. Merci Franck Miller pour le raid. Merci à Drog Gamer. Merci Vincent Sixem. Merci Lenia. Merci JB. Merci Gérard. Merci Patsa Brezel. Donc, mettant en avant des années d'innovation en termes de vision virtuelle et en IA, s'est félicité le PDG de Meta qui a conçu ses lunettes en partenariat avec Essilor Luxottica, qui est un groupe d'optique qui marche très fort depuis quelques années. Et il est convaincu qu'à terme, salut Franck, ça va remplacer le smartphone. Bon. Cette dernière innovation révèle un nouvel horizon et redéfinit complètement le concept de main libre. Très attendu, ces lunettes sont dotées d'un écran couleur intégré dans le verre droit. Pourquoi droit d'ailleurs? Bon, je dis ça. Qui permet d'afficher des messages entrants, les aperçus de photos, les appels vidéo et les indications visuelles générées par l'IA comme une carte lors d'un déplacement ou la traduction d'un panneau. Donc, bon, en gros, tout est dans vos lunettes et plus sur le téléphone, quoi. Comment t'envoies un SMS via les lunettes? Je sais pas du tout, au Linux. Si l'écran, la caméra, les fonctions IA sont activables à la voix, ces lunettes seront également pilotées grâce à un bracelet. Quelqu'un m'en parlait dans le chat. Salut Franck! Ça c'est ma petite réunion qui commence dans 10 minutes. Un bracelet qui détecte les mouvements des doigts. Ouais. Et du poignet. Et du poignet. Et du poignet. Donc si vous bougez votre poignet, le bracelet va le détecter. Via la technologie de l'électromyographie. Alors ça vaudra 799 $ à partir du 30 septembre. Voilà. Et puis après, ça arrivera au Canada, à la France, en Italie et au Royaume-Uni. Notre objectif est de créer des lunettes élégantes qui offrent une super intelligence personnelle et une sensation de présence grâce à des hologrammes réalistes, dit le patron de Meta. Elles offrent une nouvelle fenêtre sur le monde, je suppose, sur le monde qui nous entoure. Ah, ça c'est intéressant. Rocky Strango me dit que ces lunettes avec IA peuvent représenter un avantage pour les personnes avec un handicap visuel. J'envisage d'en acheter une pour cela. Il y a notamment des applications avec des bénévoles pour aider les aveugles et malvoyants. Ça c'est hyper intéressant. Comment tu fais si tu as besoin de lunettes de vue en plus? Alors, Olinox est indiqué dans le chat, elles peuvent être à ta correction visuelle. Tu peux mettre les verres que tu veux, ouais. Il paraît que la présentation s'est pas très bien passée. Sugar m'explique qu'il y a eu des petits bugs pendant la démo des fonctionnalités. C'était assez gênant. Et le prix, 799 $. Bon, ça. En ce moment, l'euro est assez fort par rapport au dollar, mais merci Emmanuel. Merci Théo. Non, pas 800 $, 799. Voilà. Vous croyez que c'est bien ce truc ou pas? C'est la question que je voulais vous poser. Vous en pensez quoi de ce truc? Gadget ou révolution? Non, merci. On s'en fout, inutile, vous croyez? Actuellement, non, mais plus tard, ça le sera. Ça va bider. Gadget, bof, trop tôt à minima. Pas ouf. Pour les gens qui savent pas quoi faire de leur argent. Merci Emmanuel, c'est adorable. Google a déjà essayé. Truc de flexeur. Pourquoi faire? Pour plus tard. J'en ai une paire, elles sont super. J'en rajoute. J'en rajoute, j'invente, non? Elles sont pas en vente encore. Ah, ou un autre modèle d'une autre marque alors. Gadget comme les montres connectées. Ça rassure les investisseurs. Révolution, malheureusement, peut-être pas maintenant, mais indispensable dans 15-20 ans. Ah, bah, je serai plus là, moi. Ok, d'accord. Ok. Il y a pas une démonstration là, comment ça s'appelle le truc? Ray-Ban Display? YouTube. Il y a pas une petite présentation là qu'on rêve un peu là? Ray-Ban. Trailer. J'ai une vidéo là de 55 secondes de trailer de promo. Let's go. Elles sont belles, hein? J'avoue la petite visio de boulot, la petite visio de boulot avec les lunettes, c'est pas mal ça. Ça m'a bien tenté ça. Ça doit abîmer les yeux aussi proches. Question bête, mais quand il pleut, très bonne question. Ils doivent présenter des nouveautés pour faire oublier l'échec du métavers, me dit Pierre aux investisseurs. Gadget pour Maxi. Il y a aussi à un moment, il parle avec la jeune femme et j'ai l'impression que les lunettes lui disent voilà ce que dit la dame. Et peut-être parce qu'elle parle une autre langue. Et donc, avec, vous savez, les trucs maintenant que proposent certains écouteurs de traduction instant, bah là, tu l'as aussi parce que t'as des petits haut-parleurs dans les lunettes. La visio pendant que tu conduis ou que tu fais du vélo, super idée. Les nouveaux AirPods ont ça, ouais. Question bête, quand on n'a pas de nez. Ah ouais, bah quand on n'a pas de nez, c'est compliqué, ouais. Peut-être mettre des petits élastiques. qui a besoin de parler à quelqu'un dont il ne parle pas la langue dans la rue? C'est quoi cette question? Ben non, mais il ne faut parler qu'aux gens qui parlent de ta langue. Mais comment ça? À quel moment tu parles? Toi, tu parles à des gens qui ne parlent pas ta langue? Mais t'es fou! Mais non, il faut parler qu'avec des gens qui parlent ta langue. Les Français parlent au français, point. C'est une vraie question? C'est une vraie question ou tu voulais l'exprimer un petit peu différemment? Putain, j'en peux plus. Merci les amis. Les amis, je vous quitte, j'ai une réunion. C'est trop mignon. Les amis, je vous laisse. Ouais. Disparition dans le disparition de la revue de presse jusqu'à lundi. Amis TikTok, je vous aime. Merci d'être là. Vous me régalez. Le double chat, je me régale. Je vous souhaite une belle journée, un beau vendredi, un beau week-end. Reposez-vous. Vous me verrez pas avant lundi matin sur TikTok. Par contre, sur Twitch, bah, vous pourrez me voir aussi ce soir du gaming. On va retenter le silver en Valo. Enfin, il y a d'autres jeux aussi. On va voir à quoi on joue. Dimanche, ça me plaît. Mon émission sur le jeu vidéo le dimanche soir avec un invité. Je ne vous dirai pas que c'est Maxime Biaggi, mon invité. Ne me tirez pas les verres du nez. Vous n'y arriverez pas. Et puis, il y aura du gaming aussi samedi soir. Et à partir de lundi, la revue de presse, elle sera en podcast. Tous les jours à partir de 16h. Sur toutes les plateformes de gaming parce qu'on est des fous. Prenez soin de vous. Amis de TikTok, c'est un plaisir. Je vous dis à très vite. Ciao. Non, pas pause, j'arrête. Et je vais dire au revoir aux amis de Twitch aussi. Amis de Twitch. Bon, c'est bon, on les a laissés tomber les autres TikTok là. On va faire un raid. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Bon, à ce soir. Hein. À ce soir pour du gaming. Peut-être du Valo. J'étais tellement triste hier soir qu'on n'ait pas réussi à faire le silver. Qui est en live? Ah oui, il faudra faire un petit bot podcast. T'as raison, King Julian, ouais. Ouais. Ok, nos amis Nico et Bailan sont en live. Force à eux, c'est incroyable ce qu'ils font. Qui on a? Il y a Nini qui est au Japon, qui est en live. Il y a Anaï qui est en live. Il y a Citron Violet qu'on a raid hier qui est en live. Il y a les amis d'ici Japon Corp qui sont en live. Il y a Broco qui est en live. Pff, tout le monde est en live. Ah, c'est quoi ça? C'est marrant. Je regarde un peu toutes les chaînes que je suis. Ok. Ouais, ok. Oh! Bon. Ouais. Je vous lis. Ouais, hier on a fait Ode à la joie, oui, t'as raison. Il y a Croco Coco, il dort. Il fait un marathon 24-24, 7 jours sur 7. Tant que le Six Song n'est pas fini. Là, il fait dodo, il a moitié tout nu, si vous voulez aller voir. Oh, il a son tatouage dans le dos, il a fait un tatouage Elden Ring. Quel goat. Mais là, il est quasiment à poil. Si vous voulez aller voir. Ouais, je sais pas où aller. Tout est bien, en vrai. Tout est bien, en vrai. Et si on raid Samuel Etienne? Ah non, pas l'autre vieux, là. Il est gênant, lui. Anaï? Ça fait longtemps, Anaï. Allez, Anaï qui était au The Event et qui est en Just Chatting. Très bonne idée. Là, très bonne idée. Soutenons les streameuses. Carrément. Ah, non. Let's go. Ah, puis il y a du monde là. Sur quoi là? On file sur Mario Kart à 13h. Ah, le boulet avait proposé un truc? J'ai pas vu. Je l'ai pas dans mon fil. Il a proposé quoi le boulet? Attends. Il a proposé quoi le boulet? J'ai pas vu. C'est pas dans mon fil. Une petite streameuse qui tricote? Trop bien. Mais c'est qui? Bapi Soé. On peut voir. Bapi. Ça tricote? Bapi. Ok. Mais elle tricote pas là. C'est pas du tricot. Allez sur Hollow Knight. Oh, c'est un beau jeu ça. Bah tiens, ça... alors il y a pas de cam, c'est quelqu'un qui ne met pas son image en avant et c'est ok. Hein, on choisit de s'exposer ou pas. Donc soyez pas surpris, il y a pas la streameuse en question, on la voit pas. En revanche, on est sur un jeu dont on parle beaucoup, qui est Hollow Knight, qui est un jeu magnifique. Voilà, donc ça nous permettra de le découvrir. Bapisoet, ou Bapisoet, j'espère que je prononce bien. On y va. Il y a trois viewers, je crois. Alors, vous allez être gentils par contre. Hein. Let's go. Ça charge, c'est parti. Voilà, c'est en train de charger et je vous retrouve ce soir. Est-ce que je vais encore abîmer ma santé mentale en lançant du Valo? Réponse vers 20h. Merci encore. Merci pour ce matin, c'était un plaisir d'être avec vous. À ce soir. Merci encore.